Lettre de Frère Joseph Branham du 13 décembre 2025. Les aigles se rassemblent. Chère épouse parfaite, Frère Branham dit, je cite, « Ceci n'est pas simplement une invention, mes amis. C'est ainsi dit le Seigneur, l'Écriture. » Fin de citation. Chaque chrétien veut faire partie de l'épouse, mais nous savons que son épouse ne sera qu'un petit nombre choisi. Nous savons qu'il a une volonté permissive, mais son épouse doit être dans sa volonté parfaite. Nous devons donc rechercher Dieu dans sa parole, puis par révélation, nous connaîtrons sa volonté parfaite, comment devenir son épouse. Nous devons sonder l'Écriture, car nous savons que Dieu ne change jamais d'avis à propos de sa parole. Dieu ne change jamais son programme. Il ne change jamais rien. La manière dont il l'a fait la première fois est parfaite. Ce qu'il a fait hier, il le fera la même chose aujourd'hui. La manière dont il a sauvé l'homme depuis le commencement, c'est de la même manière qu'il devra sauver l'homme aujourd'hui. La manière dont il a guéri le premier homme, c'est de la même manière qu'il doit le faire aujourd'hui. La manière dont Dieu a choisi d'appeler et de conduire son épouse, c'est de la même manière qu'il le fera aujourd'hui, car il est Dieu et il ne peut pas changer. La parole nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, quand nous lisons sa parole, nous pouvons clairement voir comment il a choisi d'appeler et de conduire son épouse dans chaque âge. Il a choisi un seul homme. Il a dit qu'ils étaient la parole pour leur jour. Le prophète nous a dit qu'il n'a jamais eu un groupe d'hommes. Ils font les choses différemment, ils ont des opinions différentes, et plus important encore, a-t-il dit, la parole de Dieu n'a pas besoin d'interprétation. Par conséquent, on ne peut rien ajouter à ce que chaque prophète a prononcé dans chaque âge, ni rien en retrancher. Il faut que ce soit ce qu'il a prononcé mot à mot. C'est assez simple. Si vous voulez mon avis de savoir ce qu'est le moyen pourvu par Dieu, restez avec le prophète. Maintenant, non seulement nous savons exactement ce qu'a été le moyen pourvu par Dieu dès le commencement, mais le Seigneur parlera même par son ange pour nous dire ce qu'il fera dans le futur, simplement pour prouver une fois de plus que Dieu ne change pas son programme. Après que son épouse, nous, aura quitté cette terre et qu'elle sera appelée au souper des noces, comment Dieu appellera-t-il les 144 000 juifs qui ont été choisis? Par un groupe d'hommes? Frère Branham dit, je cite, « Maintenant, dès que cette église, l'épouse, est rassemblée, elle est enlevée. Ce mystère du septième sceau, ou le septième sceau, le mystère du départ. Les juifs, eux, sont appelés par le mystère de la septième trompette. Il s'agit de deux prophètes, Élie et Moïse, qui reviennent. » Fin de citation. Donc, dès que l'épouse est rassemblée, nous sommes enlevés. Nous savons qu'il n'y a qu'une seule chose qui puisse rassembler l'épouse, le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est sa parole, et sa parole pour aujourd'hui est la voix de Dieu, et la voix de Dieu est, Frère Branham dit, je cite, « Si je vous ai offensé en disant cela, pardonnez-moi, mais j'ai senti que des gens avaient peut-être été contrariés par cela, mais je suis la voix de Dieu pour vous. » Voyez, je le répète, cette fois, c'était sous l'inspiration. Voyez, fin de citation. Puis-je ajouter quelque chose ici et dire, cette seule citation de l'ange messager du Dieu confirmé devrait être suffisante pour que tous les soi-disant croyants de ce message du temps de la fin, qui font profession d'être croyants, exigent de leur pasteur qu'il appuie sur lecture dans leur église, ou qu'ils se retirent afin qu'ils puissent élire un pasteur qui a la vraie révélation de Dieu. Donc la trompette a sonné et les deux prophètes apparaissent, car son septième ange et son épouse ne peuvent pas être ici sur terre en même temps qu'ils viennent. Alors, comment appelle-t-il les Juifs? De la même manière qu'il a appelé son épouse des nations. Frère Branham dit, je cite, « Les Juifs, eux, sont appelés par le mystère de la septième trompette. Il s'agit des deux prophètes. L'épouse doit sauter du chemin, elle doit monter maintenant. » Pour que les deux serviteurs de Dieu d'Apocalypse, les deux prophètes puissent faire leur apparition pour faire sonner la septième trompette pour ceux-là, leur faire connaître le Christ. Fin de citation. C'est assez clair, Dieu ne change pas son programme. Il a envoyé ses prophètes. Ainsi son épouse s'en tiendra aux moyens qu'il a pourvus, son ange prophète, la voix de Dieu sur les bandes. Puis, pour que cela soit clair comme l'eau de roche, Dieu a de nouveau parlé et dit à son prophète, « Tu m'es demeuré fidèle à moi et aux moyens que j'ai pourvus, alors le moyen que j'ai pourvu pour ton jour te dira, » Frère Branham dit, je cite, « Le septième ange messager dira, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Fin de citation. Cette voix est tellement importante, la voix de Dieu qui parle par son septième ange sur les bandes. Dieu utilisera cette voix-là, la voix de son septième ange. Non pas un groupe, non pas moi, non pas votre pasteur, la voix de son septième ange messager pour nous présenter à lui-même notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous savons que nous sommes son épouse, nous sommes dans sa volonté parfaite, nous suivons son programme pour aujourd'hui en appuyant sur lecture. Une partie de son épouse s'assemblera ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville, pour écouter notre pasteur, l'ange messager de Dieu, William Marion Branham, et il parlera et nous révélera qu'il n'y a aucune église, aucun autre groupe de gens, depuis la fondation du monde, qui a jamais eu l'occasion que nous avons d'être unis pour écouter Dieu leur parler directement. Comme nous sommes un peuple béni, nous sommes tellement heureux, nous sommes tellement reconnaissants, l'épouse devient un avec l'époux, frère Joseph Branham. La fête des trompettes du 19 juillet 1964, le matin.
Was veiled off from human view, but through suffering, death and sorrow, he has rent the veil in two.
Courbons la tête. Seigneur, une fois il a été dit par tes disciples bien-aimés, enseigne-nous à prier. En effet, quand nous entrevoyons le grand Dieu du ciel, nous nous rendons bien compte de notre insuffisance. Alors enseigne-nous à prier, Seigneur, dans notre cœur maintenant pour les choses qui seraient utiles à ton royaume et à tes serviteurs. Tu connais le besoin de chaque personne qui est ici. Et ici sur la chaire ce matin, il y a des mouchoirs et des linges, et des petits objets qui viennent de gens qui ont besoin d'aide au niveau physique et familial, et quel que soit le besoin. Mais tu es Dieu, le seul Dieu, le seul vrai Dieu qui existe. Aussi, nous te demandons, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, de guérir chacune de ces personnes. Et il se peut qu'il y ait des gens présents qui n'ont pas de mouchoir ici, ni d'objets, et qui ont besoin de guérison. Il se peut qu'il y ait des gens dans différents pays partout dans le monde qui seront même rejoints dans leur foyer ou dans leurs églises par cette bande. Nous prions, Seigneur, qu'au cours de la réunion, ou pendant qu'on fera jouer la bande, ou quelle que soit notre position ou notre état, puisse le grand Dieu du ciel honorer la sincérité de nos cœurs ce matin et guérir ceux qui sont dans le besoin, leur donner ce dont ils ont besoin. Bénis-nous maintenant pendant la réunion qui suivra. Parle à travers nous comme jamais auparavant dans l'intérêt du royaume de Dieu. Nous attendons au nom de Jésus ta réponse. Amen. Peux-tu m'aider avec ceci? C'est un plaisir d'être ici, de retour à l'église ce matin. Je viens de parler à des amis qui arrivent de l'Ohio, au sujet d'une petite fille qui avait été amenée ici il y a quelques mois. Elle se mourait de la leucémie. C'était des gens très pauvres, les parents. Et je n'ai pas le temps ce matin de lire le témoignage qui va être joint au dossier. Mais voici la photo de la petite fille après 3 jours, je crois que c'est ça, après qu'on a prié pour elle. Les médecins ne lui avaient donné que 3 jours à vivre, et 3 jours plus tard, il n'arrivait même plus à en trouver la moindre trace. Et alors, elle est à l'école, très heureuse. Je suis sûr que l'Église se souvient de la fois où on l'a amenée dans la pièce ici. Il y a aussi le petit bébé qui était né avec les intestins, comme à l'extérieur. Pour une raison ou pour une autre, les médecins et l'état de la petite, la façon dont les intestins étaient formés, on ne pouvait pas les remettre à leur place. Ils avaient peur de toucher la petite car c'est un nouveau-né. Et maintenant, la petite a peut-être 1 an, je pense, quelque chose comme ça, avec des intestins normaux, tout est parfaitement normal. C'est seulement la grâce de Dieu, il est tellement bon pour nous. Maintenant, aujourd'hui, je voulais annoncer que la réunion que nous avions prévue, à laquelle je prévoyais me rendre la semaine prochaine en Afrique, pour être avec Frère Joseph Bosé, là-bas, au Kenya, et au Tanganyika. Nous ne pourrons pas faire la réunion, nous avons reçu un télégramme de Frère Bosé. La semaine dernière, 3 de nos missionnaires ont été tués, assassinés. Il y a un soulèvement là-bas en ce moment, les communistes fournissent clandestinement des armes à feu aux indigènes. On dit qu'ils ont des bateaux de pêche un peu partout, la Chine communiste et la Russie, et ils fournissent des armes à feu aux indigènes, et eux, ils les utilisent sur tout ce qu'ils trouvent comme cible. Ils ne savent pas faire autrement. Alors là, le gouvernement a pensé qu'il ne serait pas sage de faire la réunion en ce moment. Et d'après ce que j'ai compris aussi, Frère Bosé ne peut même pas faire ouvrir les portes de son école dans la région où j'allais en ce moment. Mais ce n'est pas annulé, c'est seulement remis à plus tard, jusqu'à ce qu'ils aient ramené le calme. Très heureux ce matin de voir parmi nous de nouveau, après bien des années d'absence, Frère Jackson. Frère Sidney Jackson et Sœur Jackson de l'Afrique du Sud. Ont-ils parlé? Et ces gens ont été des vrais frères et sœurs pour moi et des collaborateurs pendant la campagne en Afrique du Sud, mon dernier voyage là-bas. Et nous espérons qu'un jour, par la grâce de Dieu, nous pourrons retourner être avec eux car il y a un besoin. J'essaie depuis 9 ans d'y retourner, mais à cause des organisations et tout, ils refusent de me laisser revenir. Alors dernièrement, je leur ai écrit une lettre. Et j'ai dit, dans ce cas, que le sang de ces âmes perdues retombe sur vous et non sur moi. En effet, je crois que Dieu veut utiliser mon ministère là-bas pour ces gens-là depuis longtemps. Et à cause d'un différend dénominationnel entre eux, ils refusent de me laisser revenir. Mais ça ne fait rien, le Seigneur va prendre la chose en main. Maintenant, ce que je voudrais dire ce matin, si le Seigneur le veut, Frère Neville m'a demandé de prendre la réunion de ce soir et au tabernacle. Alors, nous vous êtes invités. Et puis, dimanche prochain, si le Seigneur le veut, je dois être ici aussi. Et puis, peut-être pour les deux ou trois prochains dimanches, vu qu'à défaut de celle-là, de cette réunion-là qui se préparait, qui a été annulée. Bon, nous aimerions ajouter que j'avais dit que nous allions peut-être prêcher sur les sept trompettes pendant cette période. Nous nous demandions comment nous allions procéder au juste, vu que la salle n'est pas assez grande et que nous avons un problème de climatisation. La salle n'est pas climatisée. Elle n'est pas encore au point côté climatisation. Et nous avons essayé de louer une école ici, qui est climatisée, où on peut asseoir environ, il y a beaucoup de places assises, une très belle école. Mais nous n'avons rien pu obtenir. Et ce serait, ils nous offraient la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, voyez-vous, il y a des délégations qui viennent de différentes régions du monde, de la Jamaïque et des îles et du Sud, même de l'Amérique du Sud, du Canada, du Mexique et de différents pays. Alors, si on prévenait les gens par courrier lundi, ils ne recevraient l'avis que vers mercredi ou jeudi. Et ensuite, il faudrait qu'ils demandent des jours de congé et tout, ce qui rendrait la chose pratiquement impossible. Les semaines après, jusqu'à la rentrée, il faudrait prendre un soir et puis faire relâche peut-être pour un soir ou deux, puis reprendre, puis nous ne pourrions vraiment pas faire comme ça. Vous ne pourriez pas venir. Je me suis demandé pourquoi alors que j'avais prié avec sincérité. Et puis, c'est presque le moment pour nous de retourner en Arizona pour la rentrée scolaire des enfants. Et alors, je parlais à ma femme. Eh bien, hier, je suis allé dans la pièce et j'ai dit, « Seigneur, je n'emploierai peut-être pas beaucoup de mots, mais comprends, s'il te plaît, ô Dieu, ce que je veux dire dans mon cœur. Pourquoi toutes ces barrières, tout pour m'empêcher de prêcher ces trompettes? » Alors, il est venu, il me l'a révélé. Et maintenant, ce matin, je veux vous parler de la raison de cela. Et maintenant, ceux d'entre nous qui avons des Bibles et qui aimerions ouvrir nos Bibles, nous prendrons d'abord dans le Lévitique, au chapitre 23 du Lévitique. Si le Seigneur le veut, ce soir je prêcherai sur ce sujet, sortir du camp. Ce sera court, comme ça vous aurez le temps de rentrer chez vous pour le travail. Nous sommes contents de voir des visiteurs parmi nous, des gens qui ne sont pas de la ville. Combien y a-t-il de personnes ici qui ne sont pas de la ville? Voyons voir, 95%, oui, 98% de l'Assemblée. Alors, vous voyez, ce n'est pas Jeffersonville. Ce sont les gens qui viennent à Jeffersonville qui font « Nous sommes ici par la grâce du Seigneur ». Maintenant, je veux lire trois passages ce matin. L'un d'eux se trouve dans le Lévitique au chapitre 23. Et l'autre, c'est dans Ésaïe 18 et Ésaïe 27, pour vous qui l'avez noté. Et maintenant, au lieu de prêcher, si le Seigneur le veut, c'est ce que je ferai ce soir, mais ce matin, je veux donner un enseignement sur la fête des sept trompettes. D'ailleurs, ce mois-ci, c'est la fête des sept trompettes à partir de... Et c'est le septième mois, ce serait le 15 juillet qui marquerait le début de la fête des trompettes, d'après les lois du Lévitique. Maintenant, et si vous avez du papier et tout, et que vous désirez prendre en note les passages de l'Écriture et les textes, et tout, en cours de route, il y a une chose, à cette réunion, il fait chaud, et au fil des années, nous nous sommes habitués à cela. Mais quelqu'un pourrait penser que je crois qu'en entrant dans ce bâtiment, le temps s'arrête pour nous, peut-être, et que nous sommes en partie, partiellement, dans l'éternité à la façon dont je retiens les gens si longtemps. Ce n'est pas volontaire de ma part, mais je crois que nous vivons à un moment tellement proche de la venue de Jésus que je dois profiter de chaque minute où j'ai les gens rassemblés devant moi. Et je me disais, en roulant sur la route tout à l'heure, j'étais sorti pour prier un peu juste avant de monter en chaire, comme le fait tout membre du clergé qui est vraiment sincère. Je me disais, Tu sais, nous passons les moments les plus glorieux quand nous nous réunissons ici. Mais il y a des gens qui viennent de beaucoup d'États, rassemblés ici, assis ici même en ce moment, qui viennent de très loin, des centaines et des centaines de milles. Et nous nous rassemblons pour communier autour de la parole. Mais il viendra un temps, bientôt, où ceci ne sera plus qu'un souvenir que nous chérirons. C'est exact. Ces moments nous seront ôtés. C'est pourquoi nous devons faire tout ce que nous pouvons pour que ceci, que chaque minute compte. Alors pensez-y là pendant que nous subissons la chaleur de la matinée. Et vous savez, chaque corps humain est une dynamo. Il produit de la chaleur tout seul, ce qui rend la chose assez difficile à supporter. Mais je tiens à ce que vous receviez la parole. Maintenant, juste avant que nous lisions, prions. Seigneur, presque chaque personne ici présente qui est capable de bouger les mains pourrait tourner les pages de cette Bible. Mais il n'y en a qu'un parmi nous ce matin qui peut la révéler. C'est le grand Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Révèle-nous la parole, Seigneur, alors que nous lirons, comme tu l'as fait pour les disciples, alors qu'ils étaient en chemin vers Emmaüs et tu t'es mis à leur expliquer les Écritures. Quand nous repartirons, puissions-nous dire, comme ceux-là, alors qu'ils revenaient à Jérusalem depuis Emmaüs, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous alors qu'ils nous parlaient en chemin? Car c'est au nom de Jésus que nous le demandons. Amen. Levons-nous par respect pour la parole. Maintenant, mon sujet de ce matin, c'est la fête des trompettes. Je voudrais lire maintenant au verset 23 du chapitre 23 du Lévitique. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, le septième mois et le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. » Maintenant, dans le livre d'Ésaïe, à partir du verset 1 du chapitre 18, ce qui va faire le lien, « Ah, pays qui fait ombre avec tes ailes, toi qui es au-delà du fleuve de Cush, qui envoie des ambassadeurs sur la mer et les vaisseaux de papyrus, sur la face des eaux, disant, « Allez, messager rapide, vers une nation répandue loin, ravagée du peuple merveilleux, nation fondue et qui est foulée aux pieds, de laquelle la rivière a ravagé le pays. Vous tous, habitants du monde, et vous qui demeurez sur la terre, quand l'étendard sera élevé sur la montagne, voyez. » Et quand la trompette sonnera, écoutez. Dans Ésaïe 27, 12 et 13, en ce temps-là, l'Éternel secouera des fruits depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte. Et vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël. En ce jour, on sonnera de la grande trompette, et alors vous reviendrez. Ceux qui sont exilés au pays d'Assyrie, ou fugitifs au pays d'Égypte, et vous vous prosternerez devant l'Éternel, sur la montagne sainte, à Jérusalem. Prions encore. Seigneur, que ces paroles soient une bénédiction à nos cœurs, que nos pensées et notre méditation soient conformes à ce que tu veux de nous. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il y a tant de choses qu'un pasteur aimerait dire à son assemblée qu'il chérit, à ces différentes personnes venues de différents endroits, mais le temps ne nous le permettrait pas. Maintenant, comme nous abordons ce sujet, nous voulons que vous soyez bien à l'aise. Beaucoup d'entre vous sont debout. Quand je suis passé, les corridors étaient pleins. Et à l'extérieur, près des portes et en avant et tout autour du bâtiment. Et le long des murs. Alors bon, si vous voulez changer de place avec quelqu'un, ce sera très bien. Maintenant, la fête des trompettes. Or, il s'agissait là d'un rassemblement d'Israël, où ils se rassemblaient. La fête des trompettes. Maintenant, il y a longtemps que je me promets de parler du sujet des sept trompettes du livre de l'Apocalypse. Nous allons récapituler là un petit instant pour bien vous montrer la vraie raison pour laquelle je n'en parlerai pas en ce moment. Et c'est parce que le Saint-Esprit ne m'a pas permis de parler de ces choses en ce moment. Je sais que ça peut sembler très puéril, peut-être aux gens qui ont beaucoup d'instruction et d'intelligence, mais quant aux chrétiens, c'est différent. Nous suivons la conduite de l'Esprit et elle seule. J'ai d'abord remarqué, là, en prêchant les sept âges de l'Église, qui sont le modèle, ou qui auguraient tout ce que Dieu allait faire pour les Églises et par les Églises, et en les plaçant en position. Les trois premiers chapitres du livre de l'Apocalypse révèlent tous les événements qui ont trait à l'Église. Ensuite, du chapitre 3 jusqu'au chapitre 19 de l'Apocalypse, on ne revoit plus l'Église. L'Église monte au chapitre 4 de l'Apocalypse et elle revient au chapitre 19 de l'Apocalypse. L'épouse et l'époux ensemble, qui reviennent sur la terre. Ensuite, du chapitre 19 jusqu'à la fin du chapitre 22, il est uniquement question du millénium et de ce qui suivra pendant les années après. Du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, cette période-là, Dieu traite avec Israël. Alors, quand on a eu terminé le livre de la révélation de l'Église, ce que Dieu a fait à ces sept églises, qui étaient alors à leur début, ou préfigurés, en Asie mineure. Ensuite, le Saint-Esprit nous a révélé, nous a dévoilé tous les mystères qui y étaient contenus, comment il a fait avancer son Église tout au long de l'histoire. Si vous n'avez pas les sept âges de l'Église sur bande, il serait bon que vous les écoutiez. Ils seront bientôt disponibles sous forme de livres. Alors j'en étais resté là, tout simplement, et je pensais bien que plus tard, nous allions prêcher les sceaux, sans savoir ce qu'il en était des sceaux. J'avais mon idée à moi, comme tous les prédicateurs, pour avoir lu peut-être ce que d'autres hommes en avaient dit, et je faisais de mon mieux pour croire la même chose qu'eux, les choses qu'ils avaient formulées, leurs conclusions. J'avais lu le livre de M. Smith, Uriah Smith, qui est le docteur chez les Adventistes, et j'avais lu ses pensées sur le sujet. J'avais lu M. Larkin, j'avais lu autant de gens, les commentaires qu'ils avaient émis là-dessus. Mais pour une raison ou pour une autre, il me semblait que j'avais une petite opinion à moi, qui différait peut-être dès lors sur certains points. Mais à un moment donné, j'avais simplement parlé de trois sujets, le premier, ou des quatre sujets, des quatre cavaliers. J'avais prêché là-dessus quatre soirs, un soir sur un cheval, et puis sur l'autre. Mais alors, juste avant que cela arrive, j'avais eu une vision, qui est enregistrée sur bande, comme vous le savez, messieurs, quelle heure est-il? Comme quoi je devais aller à Tucson, en Arizona. Et là-bas, derrière le désert, sur la montagne où j'étais avec des frères, je leur ai parlé de cette grande déflagration. Et sept anges sont descendus. Ce que j'avais pensé, moi, c'est que c'était la fin de ma vie. J'avais dit à mon épouse d'aller rejoindre Billy et quoi faire avec les enfants et tout, jusqu'à ce que nous nous retrouvions de l'autre côté. Alors un jour, dans le canyon Sabino, Dieu m'a fait monter là-haut un matin de bonne heure, et j'étais là avec la main en l'air. Je priais et une épée m'est arrivée dans les mains. Vous savez cela, je me suis tenu là à la regarder, elle était aussi naturelle que ma main en ce moment. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et elle est restée là avec une voix qui m'a dit, « C'est l'épée du roi. » Ensuite, plus tard, quand l'ange du Seigneur a révélé ce qu'il en était, c'était la parole dans la main. Tout de suite après cela, les anges du Seigneur sont apparus et m'ont parlé des sept trompettes ou des sept sceaux, que je devais revenir ici à Jeffersonville pour prêcher les sept sceaux. Et là, si jamais j'ai dit quelque chose qui était inspiré, c'était bien cela. Là, quand l'ange du Seigneur est venu parmi nous et la Bible est devenue une Bible nouvelle, C'est là qu'elle s'est ouverte pour révéler toutes les choses que les réformateurs et tout avaient laissées de côté. C'était la révélation entière de Jésus-Christ, complètement nouvelle pour nous, mais parfaitement et exactement conforme à l'Écriture. C'était la parole qui a toujours été. J'étais tellement inspiré et tellement conduit. Ensuite, quand j'en suis venu à cette partie-ci, de prêcher les sept trompettes, je m'étais dit, « Eh bien, je ne chercherai pas à penser quoi que ce soit. J'attendrai simplement ce moment-là et je le laisserai me révéler ce qu'il en est. » Et puis hier, quand je suis allé dans mon bureau et que je me demandais pourquoi, ou excusez-moi, c'était avant hier, quand je suis allé dans mon bureau pour essayer de comprendre, c'est là que le Saint-Esprit m'a dévoilé ceci, pour me montrer la raison. Ce n'est même pas utile à l'Église en ce moment, parce que ça n'a rien du tout à voir avec l'Église. Donc, les mystères cachés de Christ ont été révélés entièrement dans les sept sceaux. Ce qui a été révélé d'abord, les sept âges de l'Église, les âges ont été dévoilés et placés en position, en harmonie avec l'histoire et aussi avec la Bible, placés en position telle qu'elle. Et nous nous sommes retrouvés au dernier âge de l'Église, l'âge de l'Église de Laodicée, qui était le plus corrompu de tous les âges de l'Église, à partir du tout premier âge, même celui des Éphésiens, lequel a été un grand âge de l'Église. Et puis voilà que le Saint-Esprit m'a donné une vision ici, et j'ai vu ce qui allait se produire. Je l'ai tracé au tableau il y a 2 ans. C'est ici sur le schéma, voici, la lumière qui disparaissait peu à peu de la terre, ce qui correspondrait précisément à la manière dont la lumière est venue sur la terre par l'Évangile, et la manière dont elle apparaîtrait et disparaîtrait. À ce moment-là, je ne savais pas ce que ça voulait dire et comment ça se passerait. Mais le grand monde œcuménique a eu une rencontre avec Rome. Rome, qui est la mère de toutes les organisations, le pape, pour la première fois de l'histoire, a quitté le Vatican et est allé à Jérusalem et à bien des endroits. Or, Jérusalem est le siège historique de toute notre religion. C'est Jérusalem. Et de ce siège historique, le pape de Rome, qui a toujours été, à toutes les époques, le plus grand ennemi de l'Église, part pour venir visiter Rome, ou de Rome pour venir en Palestine, à Jérusalem. Et comme nous le voyons, je suis moi-même sans instruction. Je ne connais pas les mots et la manière de les dire. Alors j'ai toujours enseigné en utilisant des types, en prenant les caractéristiques qui se dégagent de la nature. La nature se conformera à la nature. La nature est de Dieu. Tenez, quand c'est le moment où les bêtes, dans le champ, se rassemblent toutes dans un coin du champ, sortez votre ligne à pêche de l'eau. Les poissons ne mordront pas. Vous n'en prendrez pas. Voyez-vous, les bêtes se reposent. À moins que vous atterrissiez en plein dans le lit de l'un d'entre eux. Mais quand les bêtes se mettent à brouter, regardez bien, quand les bêtes font ça, au même moment, les oiseaux aussi vont s'envoler dans les arbres. Ils vont s'arrêter de manger. Voyez-vous, c'est la nature. Tous les éléments s'harmonisent. Vous remarquerez, les abeilles, à ce moment-là, elles bourdonnent au-dessus de leur miel. Elles ne butinent pas. Tous les éléments de la nature œuvrent dans l'harmonie. C'est pourquoi, par exemple, quand on voit un arbre qui laisse tomber une feuille, ça ne va plus tarder, là, d'ici quelques mois, la feuille va tomber de l'arbre. Et la vie, la sève, va descendre dans les racines. La feuille de l'arbre va se détacher et tomber sur le sol, et elle va pourrir. Et le calcium et la potasse, ça se trouve dans la feuille de l'arbre, qui va pourrir dans la terre. Et qu'est-ce qu'il y a eu? La vie est descendue là avant, et elle va aspirer tout cela en elle, et elle va ramener la feuille de nouveau. C'est une mort, un ensevelissement et une résurrection. Et toute la nature, la lune est l'épouse du soleil. C'est la lumière mineure. Aussi, quand le soleil n'est plus là, en l'absence du soleil, la lune réfléchit la lumière sur la terre. Et c'est un type de l'Église. Quand le pape part, l'ennemi historique de l'Église, et qu'il se rend à Jérusalem, qui est le siège de l'Église, Il y a la Nouvelle Jérusalem et l'Ancienne Jérusalem. Nous remarquons avant cela, il y a eu un obscurcissement complet de la Lune. Et dans les journaux d'un bout à l'autre du pays, nous l'avons mis au tableau, ils ont montré la Lune qui est passée de la lumière aux ténèbres. Et ce qui est vraiment phénoménal, c'est que la Lune, là, elle a dessiné de façon précise, dans les cieux, la même chose que le Saint-Esprit m'avait fait dessiner ici il y a 2 ans. Et ce qui montrait, couvrait, il y a eu 6 photos. C'est moi qui ai ajouté la 7e, là. En effet, au 7e âge de l'Église, il n'y a qu'une ombre de lumière, le départ de... C'est là que Jésus est à la porte, il frappe, mais elle s'enfonce dans l'obscurité totale. Quel reflet, quel message de Dieu lui-même, comme quoi ces choses sont la vérité. Il en a d'abord témoigné dans sa parole, ensuite par l'Esprit qui est sur l'estrade, et ensuite il l'a proclamé dans les cieux. Il n'y a pas à s'y méprendre du tout. Les sceaux et les âges, là, ils concordent parfaitement, parfaitement. Dieu en a rendu témoignage par des signes surnaturels et des prodiges. Avec la parole et l'histoire, tout cela cadre ensemble, bien en place, dans l'âge où nous vivons maintenant. Bon, les églises ont du mal à voir cela. Les dénominations ont du mal à le voir. Elles sont toujours portées à penser qu'on est là à chercher à réprimander les gens. Ce n'est pas ça. Ce qu'on cherche à faire, c'est de mettre les gens en garde. Ce n'est pas qu'on cherche à leur faire du mal. On cherche à les retirer du mal. Ce n'est pas les gens qui sont dans les organisations, c'est le système dont ils font partie qui les perd. Il y a des gens honnêtes et sincères qui sont catholiques, protestants, juifs et quoi encore. Ce sont des êtres humains qui... Les religieuses n'entrent pas au couvent pour être des femmes méchantes. Elles y entrent pour être des femmes bonnes. Elles cherchent à se rapprocher de Dieu, mais c'est le système qui les corrompt. Les gens adhèrent à l'Église, non pas pour être quelqu'un de méchant, mais pour être quelqu'un de bien. Mais c'est le système de l'Église qui les éloigne de la parole et des principes que Dieu a posés pour ce jour-ci. Voilà ce qui les éloigne du chemin. Maintenant, souvenez-vous, Dieu est la parole, et à chaque âge, il a assigné la parole qui était destinée à chaque âge qu'il y aurait sur terre. Il l'a donnée à l'âge de l'Église et les 7 sceaux ont révélé tout ce qu'il en était. Voyez? Pourquoi y avait-il des mystères qui étaient encore cachés? Dans Apocalypse 10, nous voyons à la fin du message du 7e ange que ce mystère qui avait été caché allait être révélé. Apocalypse 10, 1 à 7. Remarquez, la raison en est qu'il n'y avait pas eu de prophète pendant cet âge. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé à ses prophètes, ses serviteurs les prophètes. Et dans tous les âges, la parole du Seigneur est toujours venue aux prophètes, jamais à un système, jamais à un groupe. Jamais Dieu n'a utilisé un groupe. Chaque fois qu'un groupe de gens s'est organisé, Dieu s'est retiré de là et n'y est jamais retourné. Fouillez dans l'histoire et voyez si c'est vrai ou pas. Nous l'avons déjà fait. Jamais il ne traite avec un système ou avec un groupe après qu'ils se sont organisés. C'est contraire à Dieu. Donc, pendant la période des réformes, il y a eu des réformateurs comme nous l'ont prouvé les 7 sceaux. Mais maintenant, au dernier jour, ce devait être de nouveau révélé. En effet, nous voyons dans l'Écriture, dans Malachi 4, qu'une onction doit descendre pour rétablir cette foi originelle et pour ramener la foi des gens à la Pentecôte originelle, à la foi des Pères. Nous avons considéré l'Élie qui est venu la première fois. Nous avons considéré l'Élysée qui l'a suivi. Nous avons considéré Jean-Baptiste après, qui a été l'Élysée de ce jour-là, et la promesse qu'un autre viendrait en ce jour-ci. Or, Jean-Baptiste n'était pas l'Élysée de Malachi 4. Il était l'Élysée de Malachi 3. Jésus l'a dit, « Voici, j'envoie mon messager devant ma face pour préparer le chemin. » Nous avons vu que c'est bien ce qu'il était. Maintenant, en faisant comme ça, en trouvant ses positions, nous savons que tout le reste de l'Écriture, qui est inspiré de Dieu, nous révèle que nous sommes au dernier jour. Alors, si je venais avec le message de la Pentecôte, je serais dans l'âge de l'Église de la Odyssée, et ce ne serait pas juste. C'est pour cette raison que Wesley ne pouvait pas apporter le message de Luther. Luther était dans un âge de l'Église, et Wesley était dans un autre âge de l'Église. Si Jésus était venu avec le message de Moïse, ça n'aurait pas marché. Si Moïse était venu avec le message de Noé, ça n'aurait pas marché. Mais Dieu a assigné à son peuple, de chaque âge, une partie de l'Écriture. Et avant que cet âge puisse naître, dans le temps, les Églises ont tellement tout mélangé qu'elles ne savent pas où elles en sont. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. Ils, leur tradition avait aveuglé leurs yeux. Pourtant, ils correspondaient parfaitement à l'Écriture. Même chose pour les prophètes. Jésus a dit, « Lequel d'entre vous, de vos pères, n'a pas lapidé les prophètes qui vous avaient été envoyés? » Donc, Dieu envoie son prophète pour... Et le prophète est la parole vivante de Dieu, manifestée. Jésus a dit, « Comment pouvez-vous me condamner pour avoir dit, « Je suis le Fils de Dieu, alors que vous appelez dans vos propres lois? » Vous dites que ceux à qui la parole du Seigneur est venue, c'est-à-dire les prophètes, vous les avez appelés des dieux. Et c'est ce qu'ils sont, car les Écritures ne peuvent pas être anéanties, a-t-il dit. Dans ce cas, comment pourriez-vous me condamner? Alors que ceux-là étaient une partie de la loi. Ils étaient une partie de la parole de Dieu, mais Jésus était la plénitude de la parole de Dieu. Son plan de la rédemption en entier, la totalité de ce que Dieu est, était en lui. Et maintenant, au long des âges de l'Église, ils ont fait pareil. Et les sept sceaux doivent révéler tous les mystères qui sont restés en suspens pendant ce temps-là, parce que nous n'avons pas eu de prophète et la parole ne vient pas aux réformateurs, aux prophètes. Dieu est immuable. Dans Malachie 3, il est dit, « Je suis Dieu et je ne change pas. » La première manière de faire de Dieu, c'est la manière de faire de Dieu pour toujours. Dieu a décidé qu'il allait sauver l'homme par le sang versé d'un innocent dans le jardin d'Éden, et il n'a jamais changé cela depuis. Et il ne peut pas changer cela. Nous avons essayé par l'instruction, par les bâtiments, par les systèmes, par les dénominations, par les éthiques et tout le reste, et tout cela a échoué. Mais il n'y a qu'un seul lieu où Dieu rencontre l'homme, c'est sous le sang versé de l'innocent. Seulement par le sang. C'était sa première décision, voyez. Nous, nous pouvons prendre une décision et l'an prochain, nous pouvons avoir une meilleure idée. L'an prochain, nous avons une meilleure idée là-dessus. Dieu, lui, il ne peut pas. Il est infini. Sa première décision est parfaite. Rien ne peut l'en faire broncher. Moi, je peux avancer en connaissance. Nous sommes limités. Je peux avancer en connaissance. Vous pouvez avancer en connaissance. Mais Dieu ne peut pas avancer en connaissance. Il est parfait au départ. Par conséquent, la première décision que votre âme se repose sur elle. Ce que la Bible dit, c'est juste. Un jour, Dieu devra juger le monde. Les catholiques prétendent qu'il va le juger d'après l'Église catholique. Si c'est le cas, laquelle des Églises catholiques? Elles diffèrent l'une de l'autre. Si vous le jugez d'après l'Église protestante, laquelle des Églises protestantes? Elles diffèrent l'une de l'autre. Et ce serait assez déroutant. Personne ne saurait à quoi s'en tenir. Si les méthodistes ont raison, les baptistes sont perdus. Si les protestants ont raison, les catholiques sont perdus. Si les catholiques ont raison, les protestants sont perdus. Mais la Bible dit qu'il jugera le monde par Jésus-Christ. Et il est la parole. Alors, il le jugera par la parole. Et toutes les dénominations s'écartent de cette parole pour former leur credo. Je demande à n'importe qui de me prouver qu'elles prennent la parole entière. Elles ne peuvent pas le faire parce qu'elles sont sous le contrôle d'un système dirigé par des hommes. Où on a des hommes, Dieu n'a jamais traité qu'avec une seule personne à la fois, même qu'il n'a jamais eu deux prophètes en même temps. Un seul. Dieu, quand il peut avoir un seul homme dans sa main, il ne traite pas avec vous, votre organisation, il traite avec vous. Maintenant, en se fondant là-dessus, nous en arrivons à la fête des trompettes, les mystères cachés. Il a été prophétisé que ça se passerait de cette manière-là, c'est pourquoi ça devait être révélé de cette manière-là. Mais être révélé en ce dernier jour, pour accomplir précisément ce que je viens de dire, Malachie, chapitre 4, Luc, chapitre 17 et le verset 30, la manière dont il le ferait, et Hébreux 13, 8, Hébreux 4, 12, et un grand nombre des passages de l'Écriture qui nous en parlent. Or, si tout cela est étranger à certains d'entre vous, permettez-moi de dire que Dieu, toujours, la manière dont Dieu se fait connaître au milieu des gens, c'est en étant prophétique. Les Juifs ont toujours su qu'ils devaient croire leurs prophètes. Il a dit, s'il y en a un parmi vous, moi l'Éternel, je lui parlerai par des songes spirituels et par des visions. Et si ce qu'il dit arrive, alors écoutez-le. Ils ont toujours, ainsi quand ils n'ont pas reconnu Jésus, ils ont été forcés de l'assimiler à autre chose. Alors ils ont dit qu'il était un mauvais esprit, Béelzébul, parce qu'ils pouvaient discerner les pensées qu'ils avaient dans le cœur. Toujours, nous le savons, c'est un signe de la parole. Hébreux, chapitre 4, verset 12, dit, « La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. » Quand celui-là, le Saint-Esprit, viendra sur vous, il vous rappellera ces choses que je vous ai dites, et il vous annoncera les choses à venir. Dieu, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Hébreux 1, a parlé à nos pères par les prophètes et en ces derniers jours par son Fils, Jésus-Christ. Le même Dieu est simplement passé des prophètes au Fils, c'est tout. Voyez, toujours le même message, la même manière de faire. Maintenant, il a été prophétisé que les églises seraient dans cet état, il fallait qu'elles soient rétablies. Il a dit dans Malachie 4 qu'il enverrait Élie, le prophète, et rétablirait les gens de nouveau, avec les ramènerait, remarquez. Et juste avant, ou juste après son message, il y aura un temps où le monde brûlera, et les justes marcheront sur les cendres. Or, il se pourrait qu'un théologien qui soit à l'écoute de la bande, quelque part dans le monde, si vous pensez qu'il s'agissait de gens, souvenez-vous, dans ce cas, il y aurait une erreur dans les Écritures, car le monde n'a pas brûlé après le message de Jean. Jésus n'est pas venu, il n'a pas fait entrer les gens dans le millénium. Mais il a promis de le faire après que l'esprit d'Élie serait revenu sur la terre. Remarquez, maintenant, dans Malachie 4, nous voyons ici que ceci doit être fait afin de ramener quoi? La foi des gens aux premiers pères, la doctrine de la Pentecôte, les premiers pères. Il ramènera les gens aux pères. Nous voyons dans Luc 17, Jésus a dit que, quand il viendrait, en ces derniers jours, Luc 17, 33, nous voyons que Jésus a dit, « Ce qui arriva au jour de Lot arrivera de même à la venue du Fils de l'homme, quand le Fils de l'homme sera révélé. » Maintenant, remarquez, il est venu sous le nom de trois fils. Il est venu sous le nom du Fils de David, ou du Fils de l'homme, du Fils de Dieu, du Fils de David. Or, il devait venir comme Fils de l'homme parce qu'il était prophète. Jéhovah lui-même a appelé les prophètes fils de l'homme. Et Jésus ne disait jamais de lui-même qu'il était le Fils de Dieu. Il disait toujours qu'il était le Fils de l'homme. Mais remarquez, à ce moment-là, il s'est révélé comme prophète, comme voyant. Il a dit, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne le croyez pas. » Il a correspondu en tout point à la description ce qui avait été énoncé à son sujet dans l'Écriture, jusqu'à sa mort même, son ensevelissement, sa résurrection, sa crucifixion, sa naissance, tout. Et en accomplissant son œuvre, il a correspondu à la description du voyant, du Fils de l'homme. Maintenant, il s'est révélé au long des âges de l'Église, maintenant regardez bien, au long des âges de l'Église, comme Fils de Dieu. Dieu, comme il est un esprit, le Saint-Esprit, il s'est révélé au cours des âges de l'Église, comme dans l'Assemblée, comme le Saint-Esprit au milieu des gens. Nous voyons dans l'âge de l'Église de Laodicée, le dernier âge de l'Église, qu'il est expulsé de l'Église. Il n'avait jamais été expulsé nulle part, dans aucun autre âge que l'âge de Laodicée. Parce qu'il disait, « Nous sommes riches et nous n'avons besoin de rien. Et vous ne savez pas que vous êtes misérables, pauvres, nus et aveugles, vous ne le savez pas. » Il a été expulsé de l'âge de l'Église. Et puis, selon Luc 17, il a dit, « Ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. » Or, il lisait dans la même Genèse que nous lisons. Remarquez à Sodome ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a eu à Sodome? Abraham, il y a toujours trois catégories de gens. Il y avait Abraham, l'élu et appelé à sortir, qui était en dehors de Sodome même. Il y avait Lot, le membre d'Église ou l'homme dénominationnel là-bas. Il s'est intégré à ce monde-là en étant le maire de la ville. Il s'assoyait à la porte, il était le juge, ce qui correspondait au maire. Et il y avait Sodome même. Donc, au temps du soir ou au milieu du jour, pendant qu'Abraham était assis sous son chêne, trois anges lui sont apparus. Deux d'entre eux sont allés à Sodome et ont prêché l'Évangile, ont cherché à faire sortir les gens de là. Ils ont refusé. Ils étaient pervertis. Lot et sa femme, eux seuls, et deux de ses filles se sont mis en route. Et sa femme est devenue une statue de sel. Mais celui qui est resté là a parlé avec Abraham, qu'Abraham a appelé Elohim, le Tout-Puissant. Genèse 1, Dieu, au commencement, Dieu, Elohim, celui qui est entièrement suffisant, celui qui existe par lui-même. Abraham l'a appelé Elohim. Il s'est assis et il a mangé avec Abraham. Il a bu, il avait revêtu une chair humaine. Et regardez bien quel signe il a donné à Abraham. Or, ils attendaient la venue d'un fils, un fils promis, Isaac. Pendant 25 ans, un long parcours, ils l'avaient attendu, mais ils étaient arrivés au bout de la route. Dieu est apparu sous différentes formes, comme il l'a fait au long des âges à l'Église, dans des lumières et tout, alors qu'il avait parlé à Abraham, et par des voix. Mais juste avant l'arrivée du Fils qui allait venir, bon, nous avons déjà fait cette étude-là, et vous savez que je ne fais que récapituler, c'est pour vous faire voir ceci, c'est qu'il a changé le corps d'Abraham et de Sarah tout de suite après, pour qu'ils puissent recevoir ce Fils. Remarquez, le dernier signe qu'ils ont reçu avant l'arrivée du Fils, c'était Jéhovah qui leur a parlé sous la forme d'un homme. Et comment ils ont su qu'il s'agissait de Jéhovah, c'est parce qu'il a dit « Abraham », pas « Abraham ». Seulement quelques jours auparavant, Dieu avait changé son nom. « Où est ta femme, Sarah ?» Non pas « S-A-R-A-I-T-R-E-M-A », mais « S-A-R-A », princesse. Et Abraham a dit « Elle est dans la tente derrière toi ». Il a dit « Je », c'est un pronom personnel, « Je te visiterai selon ma promesse ». Et à l'époque de la vie, les prochains 28 jours, il va arriver quelque chose à Sarah. Et Sarah, dans l'attente, a souri en elle-même, et elle a dit, dans son cœur, « Comment cela peut-il se faire, puisque je suis vieille, et j'aurai du plaisir avec mon Seigneur, qui est vieux aussi, Abraham? » Et l'ange, ou l'homme, a dit, « Pourquoi Sarah a-t-elle dit ça dans son cœur? » Dans l'attente, derrière lui. Pourquoi a-t-elle dit que ces choses ne peuvent se faire? Voyez, un homme dans une chair humaine, comme un prophète, et pourtant c'était Elohim qui discernait la pensée qu'il y avait dans le cœur de Sarah, derrière lui. Et Jésus a dit, « Ce qui arriva au jour de Lot arrivera de même à la venue de la fin du monde, quand le Fils de l'homme, pas le Fils de Dieu, quand le Fils de l'homme se révélera. » On n'avait pas eu cela au long de l'âge. Voyez-vous la continuité parfaite de l'Écriture? Voici que nous sommes en train de vivre cela. Les mystères, même celui du baptême au nom du Seigneur Jésus et sans tomber dans la conception unitaire, et ces autres choses, le Saint-Esprit qui a présenté cela l'a démontré de façon parfaite, le vrai baptême du Saint-Esprit, le signe et tout, et il a mis cela en place, il a situé chaque réformateur et tout très précisément. Et vous voyez devant nos propres yeux, et ça n'a pas été fait en cachette. Le monde entier est au courant. Jésus, le Fils de Dieu, se révèle par les Écritures, qui fait vivre cette Écriture qui a été prédestinée pour ce jour-ci, comme il en avait été de ce jour-là et de tous les autres jours, et de croire cela. C'est la preuve qu'on a le Saint-Esprit. La justice, vous ne pouvez pas déclarer que simplement d'aller à l'Église, c'est la preuve qu'on a le Saint-Esprit. Dans ce cas-là, alors, les pharisiens l'avaient. Voyez, vous ne pouvez pas déclarer que de trembler ou de sauter en l'air, c'est la... Dans ce cas-là, les barbares l'ont. Si vous dites que c'est de parler en langue, quel culte des démons ne parle pas en langue? Nommez-moi un. Frère Jackson, qui est assis ici pour l'Afrique, de l'Afrique, il pourrait vous le dire. Je suis allé dans des camps d'Indiens ici. J'ai vu les sorcières et les sorciers se taillader, verser leur propre sang et parler en langue, et le sorcier guérisseur en donnait l'interprétation. Je les ai vus poser un crayon et qu'il écrive en langue inconnue. Alors, ce n'est pas ça. Mais si, quelle est la vraie preuve? Jésus a dit que vous croyez que je suis celui-là. Et il est la parole. Pourquoi n'ont-ils pas saisi? Pourquoi les Juifs n'ont-ils pas saisi? C'était des hommes justes. C'était des hommes bons. C'était des hommes saints. Il y avait toutes sortes de gens, mais c'est pour celui qui est prédestiné à entendre la parole. Et comment savoir si c'est la parole ou pas? Chacun le dit. C'est la promesse de la Bible qui est confirmée pour l'âge en question. Voilà. Alors on revient là où est le Saint-Esprit. Observez le son de la trompette dans quelques minutes, ce qu'elle proclame. La trompette de l'Évangile, voyez qu'il peut l'entendre. Souvenez-vous, ceux qui étaient dans les villes fortifiées ne pouvaient pas sortir au moment du jubilé. Non, monsieur, ils étaient armurés. Ils restaient là. C'était terminé. Ils étaient esclaves jusqu'à la fin de leur vie. Et il fallait qu'on les marque. Or, comme nous voyons tous ces exemples, remarquez. Or, ces actes, Malachi 4 et tout ça, et Hébreux 13, 8, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, il demeure la parole pour toujours. La parole manifestée. C'est exactement ce qu'il a démontré par les prophètes. Un prophète, ça ne veut pas seulement dire un voyant, quelqu'un qui annonce quelque chose, ça veut dire quelqu'un qui révèle la parole qui est écrite. Par sa propre vie, ses propres œuvres, la parole de ce jour-là est révélée et confirmée. Par exemple, Noé qui a construit l'arche, Moïse qui est allé là-bas et tout ce qu'il y a eu d'autre, n'importe quelle promesse, la parole promise pour cette heure-là. Maintenant, nous savons qu'il est avec nous. Nous le croyons. Vous voyez sa parole manifestée par des photographies, par des passages de l'Écriture, par des démonstrations dans le ciel, sur la terre, par toutes les autres choses qu'il a dites. Cela n'a pas failli. Pas une seule fois. Je demande à n'importe qui de me montrer des différentes régions du pays ou de n'importe où dans le monde. Vous êtes dans l'obligation de m'écrire pour m'en parler d'une seule fois où cela aurait failli. C'est parfait, mot à mot. Bon, c'est une promesse. Pourquoi devait-il apparaître en ces derniers jours? Si vous reprenez, vous qui écoutez les bandes, l'arbre épouse, et que vous vous reportez à l'endroit où on a parlé de Christ qui était l'arbre, qui était dans le jardin d'Éden. Le premier Adam qui est tombé, ce deuxième Adam qui a été retranché à cause du péché. Ils l'ont pendu à un arbre romain, et c'est de là qu'est sorti l'arbre épouse, ce qu'il avait promis, que nous voyons dans les Écritures là pour pouvoir obtenir l'épouse. C'est comme la pyramide qui devient toujours de plus en plus restreinte à partir d'une base très large. À partir de Luther, Wesley, la Pentecôte, et puis la pierre de fête qui est au sommet est tellement aiguisée. Et ces pierres, elles sont toutes assemblées tellement parfaitement. Nous ne savons pas encore comment ils sont arrivés à faire ça, mais tout a été assemblé tellement parfaitement dans cette pyramide. Ce n'est pas un enseignement sur la pyramide que nous faisons là. Nous faisons seulement... Enoch et les autres l'ont construite il y a des années et elle est là comme symbole. Exactement comme le soleil se lève et se couche, exactement comme l'arbre laisse tomber sa feuille et elle revient ensuite, comme le poisson et les bêtes et tout le reste, c'en est un symbole. La pyramide est là, comme symbole. Allez dans la chambre du prophète et observez bien les sept marches. Où le garde relevait-il le défi de faire entrer dans la présence du roi celui qui arrivait? En haut des marches, c'était à la septième marche, ce qui montre que nous devons en venir de nouveau au même esprit qui était sur Jean. C'est lui qui a présenté le Messie. Il était plus grand que tous les prophètes. C'est lui qui l'a présenté. Et nous devons en arriver là, de nouveau, à quelque chose qui va présenter le Messie. Et comment le Messie, les gens qui croient en lui, seront-ils à moins d'être constamment dans la parole pour savoir ce qu'il est? Daniel a dit, les sages sauront, mais les insensés et ceux qui sont dépourvus de sagesse ne sauront pas. Ils connaîtront leur Dieu. Donc, il paraîtra dans les derniers jours, et c'est pour ramener les gens à la parole, pour que l'épouse connaisse son mari, connaisse son compagnon, la parole révélée. Voilà pourquoi ceci doit arriver. On n'a pas eu cela avec les réformateurs, on n'a pas eu cela avec Luther, Wesley, et les pentecôtistes et les autres. L'Écriture le dit. Mais cela va venir. C'est sa promesse pour cet âge-ci. Nous vivons à l'âge qui verra sa venue. L'épouse doit être identifiée en lui. Toute femme doit être identifiée avec son mari, car les deux sont un. Et l'épouse de Christ doit être identifiée avec lui, car les deux sont un. Et il est la parole, et non la dénomination. La parole. Nous devons être les enfants de la lumière, et la lumière, c'est la parole qui se fait lumière pour cet âge. Comment connaître la lumière, à moins qu'elle ne vienne de la parole? Bien, la parole faite chair est la lumière de l'âge. Quand vous la voyez, c'est la Bible qui le dit. Ces gens qui regardaient Jésus là et qui disaient, « Eh bien, cet homme, qui est-il? Mais il est né là-bas, c'est un enfant illégitime. Voyons, son père et sa mère sont ceci, cela et autre chose, et tout ça, mais ne l'ont pas reconnu. S'ils avaient connu les Écritures, ils l'auraient reconnu. Il l'a dit. Il disait, « Nous sommes les disciples de Moïse. » Il a dit, « Si vous connaissiez Moïse, vous me connaîtriez, car Moïse a écrit à mon sujet. » Encore là, trois aveugles pour le voir. Vous voyez comme c'est humble? loin de toutes les équipes et des dénominations et des credos et tout. Dieu est venu s'installer dans une chair, a pris la forme d'un homme, d'un parent rédempteur. Elle doit être identifiée avec lui. Nous sommes invités à être les enfants de la lumière pour marcher dans la lumière. Je me souviens ici au Kentucky, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une réunion. Dehors, quand je suis sorti de l'église, il y avait un vieil homme qui était là, une lanterne à la main. Il était membre d'une église qui ne croit pas à la guérison et tout. Il a dit, « Je ne suis pas d'accord avec vous, frère Branham. » J'ai dit, « Eh bien, c'est votre droit. » Il a dit, « Voyez-vous, je refuse d'accepter quoi que ce soit que je n'ai pas vu. Il faut que je le voie, bien clairement. » J'ai dit, « Dans ce cas, avez-vous déjà vu Dieu, bien clairement, devant vous? » Évidemment, il ne croyait pas aux visions et tout. Il a dit, « Non. » Eh bien, j'ai dit, « Dans ce cas, vous n'êtes pas un croyant, monsieur. Je ne pourrais pas vous parler. Voyez, voyez. Nous voyons ce que Dieu promet et nous nous y tenons. » Il a dit, « Comment arrivez-vous à ce raisonnement-là? » J'ai dit, il a dit, « Venez avec moi à la maison ce soir et nous parlerons. » J'ai dit, « Je ne peux pas. J'aimerais bien. Où habitez-vous? » Il a dit, « Il faut aller de l'autre côté de cette montagne ici. » J'ai dit, « Comment ferez-vous pour vous y rendre? Vous ne voyez pas votre maison? » Ah, oui, oui. Il a dit, « Eh bien, il y a un sentier qui mène de l'autre côté de la colline. » J'ai dit, « Vous ne voyez pas le sentier? » Ah. Il a dit, « Eh bien, j'ai une lanterne. » J'ai dit, « La lanterne ne va pas éclairer la maison directement. Oh non, mais le sentier mènera à la maison. Mais cette lanterne éclairera seulement un pas à la fois. Nous marcherons dans la lumière, la belle lumière, un pas à la fois, Seigneur, en nous rapprochant de lui. Oui, enfant de la lumière, acceptez sa parole, continuez à marcher et regardez-la s'ouvrir davantage. Ne vous en détachez pas, peu importe ce que quelqu'un d'autre peut dire. Tenez-vous-y et continuez simplement à marcher avec elle. Regardez-la s'ouvrir et se révéler. La parole est une semence dans la bonne terre produira selon son espèce. Remarquez, Apocalypse 10, 1 à 7, tout le mystère doit être révélé à l'épouse par le messager de l'Église de la Odyssée. Est-ce que quelqu'un a une Bible, version révisée? Traduction anglaise de la Bible de 1884. Si oui, vous remarquerez là qu'à l'endroit où il est dit l'ange, entre parenthèses, il est dit l'aigle. Voyez? Ah! Voyez le messager de l'Église de la Odyssée, voyez-vous? Apocalypse 10, 1 à 7. Il a dit que en ce jour-là, quand il l'a vu descendre, il a avalé le petit livre. Il posa un pied sur la terre et un pied sur la mer et jura par celui qui vit au siècle des siècles qu'il n'y aurait plus de temps. Et quand il a fait cela, sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, Jean a dit qu'il allait écrire. Mais il a dit, ne l'écris pas. Ah, voyez? Et il l'a scellé. Maintenant, quelqu'un dira, eh bien, c'est sept sceaux, alors frère Branham, qui vont être révélés dans les derniers jours, ce sera un grand mystère pour nous montrer comment nous rapprocher de Dieu. Non, monsieur, impossible. Quiconque retranchera une seule parole de cette Bible ou y ajoutera une seule parole, sa part sera retranchée du livre de vie. Ce que c'est une révélation de ce qui a été omis, là-bas, qui va être apporté. C'est déjà écrit ici. C'est à l'intérieur ici. C'est de révéler ce qui est déjà écrit, voyez. En effet, vous ne pouvez pas y ajouter quoi que ce soit, ni en retrancher une seule parole. Le premier chapitre de la Bible, au commencement, la Genèse, une femme, ce n'est pas qu'elle ne la croyait pas, mais elle a seulement mal interprété. Elle a laissé Satan lui en donner une mauvaise interprétation. Un seul mot, certainement. Voyez, ensuite, à partir de là, c'est ce qui a causé tous ces problèmes. Et c'était Dieu qui parlait, la parole de Dieu. Et au dernier chapitre de l'Apocalypse, Jésus lui-même, le même Dieu, a dit, « Quiconque en retranchera une seule parole ou y ajoutera une seule parole. » Ceci, c'est la révélation complète de Jésus-Christ. Et les sept sceaux tenaient caché les mystères, tout ce qu'il en était. Et ce doit être dévoilé. Et ce doit être dévoilé au dernier jour à l'âge de l'Odyssée, à la fin du temps. Grâce soit rendue à Dieu. C'est ce qui mène à terme le message à l'Église. C'est ce qui le mène à terme en regardant en arrière et en voyant ce qui a été et en voyant à quoi tout cela a abouti. C'est ce qui le mène à terme, l'âge de l'Église. Maintenant, remarquez, les trompettes dont nous parlons, c'est un appel à se rassembler, soit pour une fête, pour la guerre, pour une personne, pour un jour sacré, ou pour quelque chose comme ça. Remarquez, vous dites pour une personne, oui, ou pour l'année du jubilé, l'annonce de la liberté prochaine, du moment où il pourrait s'en retourner. Bon, nous pourrions prendre toute une matinée seulement sur ce point-là. Mais maintenant, pour aborder les trompettes, maintenant que vous avez le contexte, les sceaux et l'Église, maintenant nous allons aborder la trompette. La trompette sonnait, la trompette annonce, soit une guerre ou un jour de fête. Ou ce que cela signifie, c'est un rassemblement des gens, la trompette. Paul a dit, quand la trompette rend un son confus, qui pourra se préparer pour la guerre ou pour la paix ou quoi encore? Qui saura? Vous devez reconnaître le son de la trompette. Par conséquent, quand la trompette sonne, nous voyons qu'il y a quelque chose sur Terre aujourd'hui. Il y a des ennuis sérieux quelque part. Tout le monde le sait. Tout le monde est devenu névrosé. Le monde entier est un monde de névrosés et nous savons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le Pentagone, partout, nous savons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Or, la seule manière de reconnaître le son de la trompette, c'est de regarder ce qui est dit sur la partition. Voyez, c'est tout. C'est une grande symphonie, voyez-vous, et il y a un rythme. Par exemple, Pierre et le Loup, voyez-vous, quand vous, si le, et le compositeur a écrit le livret, le chef d'orchestre doit être dans le même esprit que le compositeur. Sinon, il ne bat pas la mesure comme il faut, et à ce moment-là, tout est de travers. C'est ça qu'il y a aujourd'hui. Nous avons trop de chefs d'orchestre dans le qui ne sont pas dans l'esprit du compositeur. Ils disent, la dénomination, eh bien, nous croyons ceci. Vous aurez beau dire n'importe quoi, c'est la Bible qui a raison. Battez la mesure d'après la partition qui est ici même devant. Alors la grande symphonie du grand acte de Dieu se jouera juste comme il faut. Alors nous pourrons voir ce qu'il en est de l'heure et où nous en sommes. Maintenant, remarquez, la trompette sert à appeler les gens à se rassembler, à se réunir en vue de quelque chose. Parfois, elle annonçait une personne importante. Par exemple, pour Joseph, il sonnait de la trompette à l'apparition de Joseph, ce qui est un symbole de la grande trompette dont nous parlons et que nous allons voir tantôt dans Ésaïe, où il est dit « Quand la grande trompette sonnera, quand cet étendard sera élevé là-haut, alors le moment viendra où on sonnera de la grande trompette et toutes les nations se rassembleront à Jérusalem. » Ça, c'est quand le millénium commencera, la grande trompette. Maintenant, cet appel, celui de la fête des trompettes, à l'approche de quelque chose, remarquez Apocalypse 8, 7, si vous voulez le noter. Nous remarquons la première trompette, il y a eu de la grêle, du sang, du feu, ça et là, sur la terre. Tout à fait comme dans l'Exode, quand Dieu a appelé son peuple à sortir, lors de l'Exode. Or, la raison pour laquelle ces sept trompettes ne s'appliquent pas à cette église-ci ni à cet âge-ci, c'est parce que c'est uniquement pour Israël. C'est l'appel pour le rassemblement des gens. Et bon, il n'y a qu'une chose dont je veux que vous saisissiez le sens dans quelques minutes, c'est de voir pourquoi ceci ne s'applique pas à cet âge où nous vivons, les sept trompettes. Je sais que bien des gens ne sont pas d'accord là-dessus, mais je sais que c'est ça. Je le sais. Ce n'est pas parce que je l'ai dit que vous le dites, parce que ça ne vient pas de moi. Ma pensée n'est pas la mienne. Si ce qui me l'a dit est dans l'erreur, alors c'est une erreur. Mais je ne le dis pas de moi-même. Je répète ce que quelqu'un d'autre a dit. Ce quelqu'un d'autre, c'est le Dieu qui nous a parlé, qui a fait toutes ces choses qu'il a faites et qui est apparu, voyez-vous, alors je sais que c'est juste. Le rassemblement d'Israël, ce sont les trompettes. Les trompettes servent à rassembler Israël. Remarquez, la toute première trompette sonne. Le sang, le feu, la grêle et tout sont jetés ça et là sur la terre. Voyez, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait sortir Israël de l'Égypte spirituelle. Voyez-vous, le ramenait dans sa patrie. Maintenant ici, permettez-moi de dire ceci. Chaque trompette qui a sonné sous le sixième sceau. On va y venir dans quelques minutes, où on a eu le sceau, là. Toutes les trompettes ont sonné sous le sixième sceau. En effet, au septième sceau, il y a eu le silence. Personne ne savait, c'était la minute ou l'heure où Christ allait venir, comme il nous l'a révélé. Mais chaque trompette a sonné sous le sixième sceau avec la persécution des Juifs. Remarquez, Apocalypse 8, là, et à partir du verset 7, tout cela a été l'appel à sortir d'Israël, dans le naturel, en Égypte. Maintenant, c'est l'appel à sortir d'Israël au sens spirituel. Il les préparait pour qu'ils viennent à la fête de l'expiation. Remarquez, la fête des trompettes venait d'abord, ce qui était la Pentecôte. La fête de l'expiation venait ensuite, 50 jours plus tard. La fête de l'expiation, lisez-le ici. Nous allons probablement, si le temps nous le permet, nous en parlerons et nous vous le lirons dans la Bible ici, dans Lévitique 12, là, ou plutôt Lévitique 23 et Lévitique 16. Nous voyons que la première, c'était la fête des trompettes. Il y avait l'expiation et la qui venait ensuite, après la Pentecôte. Maintenant, nous voyons la fête de l'expiation venait après la fête des trompettes. Maintenant, remarquez, une trompette a sonné. Et c'était pour les rassembler. Donc, la première trompette qui a sonné, il y a eu de la grêle, du sang, du feu, qui ont arrosé la terre, exactement comme ce qu'il y avait eu en Égypte. Une préparation avant de les appeler au jour de l'expiation. Voyez, ils ont rejeté la vraie expiation. Et ces années qui se sont prolongées ici ont été l'année de la Pentecôte. Voyez, maintenant, ce qui va retentir ensuite, c'est pour les Juifs. Ce que nous avons eu maintenant, c'est l'appel à sortir de l'Église. Soyez très attentifs. Bon, et après, il les a emmenés dans le pays de la promesse. Et il fera la même chose et en symbole, il emmène l'Église dans le pays de la promesse. Souvenez-vous, chaque trompette a sonné sous le sixième sceau. C'est seulement là qu'elles ont sonné. Maintenant, remarquez, tout à fait. La continuité de l'Écriture, tout à fait la même. Sous la septième trompette pour Israël, c'est la même chose que le septième sceau avait été pour l'Église. Nous voyons sous le septième sceau que, quand ces hommes qui étaient sous l'autel, là, qui ont reçu des robes leur ont été données, pas parce qu'ils les avaient méritées, puisqu'ils faisaient partie de la dispensation où Dieu manifestait encore sa grâce envers ceux des nations, et non envers les Juifs. Israël est sauvé comme nation. Dieu traite avec Israël en tant que nation. Ceux des nations, eux, c'est un peuple pour son nom. Pas une nation pour son nom. Israël. Et quand Hitler et les autres ont persécuté les Juifs et qu'ils ont fait les choses qu'ils ont faites sous... Regardez, Staline, Hitler et tous ces dictateurs qui s'étaient élevés, si nous avions le temps, là, de revoir ça pour le nouveau venu, mais ce sont des choses que nous avons déjà vues. Dans ce même âge-là, où il y a eu en Allemagne et parmi toutes les autres nations, ces Juifs qui s'étaient dispersés un peu partout dans ces pays, mais il s'est élevé dans les 20 dernières années une persécution cruelle contre les Juifs. Je suis allé là-bas voir les vieux endroits où ils brûlaient leurs corps. Ils les incinéraient, utilisaient leurs cendres pour fertiliser le sol. Des enfants juifs, des femmes et tout. Après, ils voudraient le nier. On peut les emmener à l'endroit précis et leur montrer où ça s'est passé. Il y a eu une persécution cruelle contre Israël, parce que c'était le temps où il a été appelé, là, à revenir à l'expiation. Il est encore sous l'expiation d'un agneau naturel. C'est le vrai agneau de Dieu qui est l'expiation, mais il l'a rejeté, et le sang a été sur lui depuis. Remarquez, préparez les gens, comme c'est parfait, la septième trompette et le septième sceau. Alors, ils concordent parfaitement. La persécution des Juifs. Notez bien, dans Apocalypse, chapitre 9 et verset 13, soyez très attentifs là, sous la sixième trompette, Apocalypse 9, 13, sous la sixième trompette, notez bien que 200 000 cavaliers qui avaient été liés sur le fleuve d'Euphrate ont été déliés sous la sixième trompette. Or, il n'y a pas 200 000 cavaliers dans le monde. Pourtant, il y avait 200 000 cavaliers. Remarquez-le. Je voudrais que vous le preniez en note pour pouvoir le lire. Ce n'étaient pas des chevaux naturels. Leur souffle, c'était du feu. Ils avaient des cuirasses de jaspe et ils avaient des queues. Le bout de la queue ressemblait à un serpent, une tête de serpent au bout de la queue qui piquait. Voyez? C'était des chevaux spirituels. Des démons spirituels, des chevaux de bataille qui avaient été liés sur l'Euphrate pendant toutes ces années, des démons surnaturels. Qu'est-ce que c'était? L'ancien empire romain qui reprenait vie. La persécution des Juifs. Ils avaient été liés pendant près de 2000 ans sur le fleuve d'Euphrate sans pouvoir traverser vers la promesse. Une secte religieuse qui cherchait à passer sur l'autre rive. L'Euphrate, vous savez, traversait l'Éden. Mais ils étaient liés là. 200 000 démons de persécution. Et remarquez ce qui arrive sous cette sixième trompette. Ils ont été lâchés sur les Juifs. La persécution des Juifs. Des démons surnaturels pendant près de 2000 ans et qui ont ensuite été lâchés par Staline, Hitler sur les Juifs. Vous étiez bien ça? Ça ne vient pas de Rome. C'est le même esprit. Ils ont fait les mêmes choses que ce qu'ils avaient fait aux chrétiens à l'époque de l'ancienne Rome païenne. Maintenant, regardez bien l'Israël naturel et l'Église spirituelle. Là, nous allons faire la distinction ici. Lâchés sur les Juifs. Vous vous souvenez, sous le sixième sceau, que chacun de ces martyrs, selon la parole de Dieu, a reçu une robe. Elles leur ont été données par la grâce parce qu'ils ont été aveuglés, empêchés de voir leur Évangile afin que ce peuple destiné à former l'épouse puisse être appelé à sortir des nations. Ils ont reçu des robes, la Bible le dit ici, sous cette trompette. Ces Juifs qui sont carrément contre Christ et tout, s'ils le sont, c'est parce que la Bible le dit, ils sont aveuglés. Ils ont été aveuglés à cause de vous. Et le Dieu juste sait qu'ils l'auraient accepté, mais ils ont été rendus aveugles à cause de vous. La Bible le dit. Voilà donc l'Empire romain lié là par quoi? Les pouvoirs ecclésiastiques. En effet, Rome, la Rome païenne, est devenue la Rome papale, et elle a été liée là dans ses traditions chrétiennes. La partie du christianisme et des superstitions qu'elle a reçues de Rome, en intégrant toutes ces choses, le culte des femmes et toutes les autres choses du genre, et les jours de Noël, et les fêtes, et les jours saints et tout, elle a été liée par cette tradition dont elle ne peut pas se défaire, parce qu'elle irait à l'encontre des principes du christianisme. Toujours le même esprit impie, païen. Et cet esprit s'est répandu dans les nations du monde conformément aux prophéties d'Ézéchiel et des autres. Ils ont été lâchés sur les Juifs qui ne connaissaient rien de l'esprit. Les voilà, vos mystères cachés sous le sceau, là. Voyez, remarquez-le, nous avons déjà étudié ces choses. Et je vais vous montrer ce qu'il en est de cette trompette ici, de cette dernière trompette, ce qui arrive. Les voilà, ces trompettes sont lâchées sur les Juifs, vous le voyez, n'est-ce pas? Et non sur ceux des nations. Ceux des nations, quand les sceaux ont été ouverts, ils sont scellés, prêts à partir. Le temps s'est terminé. L'Église est appelée. Vous vous souvenez de la vision de l'autre jour? Vous vous souvenez de la vision préalable? Combien s'en souviennent le dimanche il y a 2 semaines? Elle était là, exactement, elle est passée. Nous l'avons vue exactement, nous avons vu venir cette chose sale, souillée, qui se donnait le nom de l'Église, à l'extrême de la vulgarité. Et cette petite épouse de chaque nation, chacune qui portait son vêtement national et qui marchait de façon tout à fait parfaite devant l'Éternel. Remarquez, il viendra un temps, à un moment donné, où ils diront, « Eh bien, je pensais que l'Église devait partir avant la persécution. Je pensais qu'il y aurait un enlèvement. Il est déjà passé et tu ne t'en es pas aperçu. » C'est ce qu'il a dit de Jean une fois, vous savez. Il disait, « Comment, pourquoi les prophètes disent-ils qu'un, les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? » Il a dit, « Il est déjà venu. » Les disciples eux-mêmes ne s'en étaient pas aperçus. Ils l'ont traité comme ils ont voulu. L'enlèvement se passera de la même manière. Alors, il l'a promis. Il n'a pas promis de montrer Élie comme... Il n'a pas promis de montrer Élie comme ça, mais il a promis de venir chercher l'épouse comme ça. Alors, vous n'y penserez pas, simplement un changement, l'instant d'un clin d'œil. Elle sera enlevée. Alors, vous serez laissé derrière, et alors c'est à ce moment-là. Pendant 2000 ans, cet esprit, à cause des gens de Rome, de l'Église de Rome, ne pouvait pas agir. Mais ce même esprit qui est apparu d'abord là-bas, en Mussolini à Rome, le dictateur, vous savez, les cinq... Il m'a montré 7 choses en 33 qui allaient arriver. 5 d'entre elles sont déjà du passé. Le docteur Livel est en train d'écrire un livre là-dessus en ce moment. Voyez, 5 choses. Parfaitement. Il ne reste plus que 2 choses à arriver. Il a dit qu'elles arriveraient juste avant sa venue. Nous voici à la fin maintenant et il semble que la 6e chose est en train de faire son chemin. Voyez, parfaitement. Exactement, jusqu'aux guerres et comment elles se passeraient, en plein dans le mille et pas une seule fois, ça n'a failli. Écoutez, les amis. Nous devrions faire l'inventaire à chaque heure. Vous ne savez pas où nous en sommes. C'est très proche. Donc, il a relâché sous ce 6e sceau ces 200 000 démons spirituels en commençant à Rome, en Allemagne, Hitler. Et remarquez dans la Bible, là où ils ont reçu, jamais ils ont reçu pouvoir comme roi, mais ils n'étaient pas couronnés. Un dictateur n'est pas un roi couronné, il reçoit seulement le pouvoir comme un roi. Oh! L'Esprit de Dieu en moi qui s'agite en ce moment, vous savez, il me dit quelque chose. Je ne sais pas comment le dire, ni quoi dire, et peut-être que je ferais mieux de m'abstenir. Remarquez, 200 000 démons lâchés sur ces Juifs alors qu'on les a brûlés, qu'on les a crucifiés. Qu'on leur a injecté des bulles d'air dans les veines, qu'on les a tués jusqu'à ce qu'on n'ait plus de gaz pour les tuer, qu'on les a fusillés jusqu'à ce qu'on n'ait plus de balles pour les fusiller, et on a fait tout ce qu'il était possible de faire. On a incinéré leurs corps et tout, et on les pendait à des clôtures, des enfants et tout, des gens innocents, parce qu'ils étaient juifs, c'est pour ça qu'on les a traités comme ça. Mais Dieu a dit qu'il avait donné à chacun d'eux une robe, bien qu'ils en aient été indignes. Mais c'est sa grâce, il les avait aveuglés pour que nous puissions voir. Le 7e sceau ne s'est pas encore ouvert, vous savez. C'est sa venue. Alors, pendant qu'ils sont encore là, en dessous, mais il nous montre ici par une vision préalable, comme Jean qui l'avait fait monter, une fois en marchant sur la mer, vous savez, il a dit, « Qu'en est-il de cet homme qui s'appuie contre ta poitrine? » Il a dit, « Que t'importe, il reste jusqu'à ce que je vienne. » Voyez-vous, il n'est pas resté, mais il a fait monter pour lui montrer là ce qui allait se passer jusqu'à ce qu'il vienne. Il lui a simplement montré, il a présenté à Jean le plan entier. Remarquez, nous voyons donc que ce pouvoir naturel dans le naturel destiné à une nation naturelle, Israël, a été délié là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé faire la guerre et combien il a assassiné et persécuté. Maintenant, dans le domaine ecclésiastique, j'espère que Dieu vous ouvrira les yeux sur ceci maintenant. En effet, je suis conscient que ceci ne s'adresse pas seulement à cette église-ci. Cette bande va partout dans le monde. Et mon intention, ce n'est pas de blesser qui que ce soit, mais seulement de dire la vérité. Maintenant, le domaine ecclésiastique s'est ouvert à partir du réveil naturel de l'ancienne Rome païenne, laquelle s'est élancée sur les Juifs, et elle a toujours été l'ennemi de ceux-ci. Le lion avec les dents et tout, il écrasait et abattait les gens. Rome, qui a toujours été l'ennemi de Dieu, et il a été délié, le même esprit par les dictateurs du monde, parce que le système religieux, lui, le retenait encore. Et voilà qu'il a été délié. Qu'est-ce qu'il a fait? Par la ruse, comme il l'a dit, il s'est introduit par des flatteries. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est en train de mener le conseil œcuménique protestant des églises du monde, vu que l'esprit de l'Antichrist est sur les deux, il les mène à la boucherie, exactement comme ils avaient fait à l'autre, à l'heure de l'appel de l'épouse. Comment? Relâcher dans l'église, l'ecclésiastique, l'esprit. Relâcher sur quoi? Pas sur la dénomination, sur l'épouse. Mais ici, vous allez le saisir, l'épouse n'aura pas à subir cette période-là. La Bible dit que non. L'Église, oui, mais pas l'épouse. Vous le voyez, n'est-ce pas? Les prédicateurs, vous le voyez, n'est-ce pas, les frères? Vous dites l'Église doit passer par la persécution pour arriver à sa perfection. C'est le sang de Jésus-Christ qui rend l'épouse parfaite. Un homme qui choisit une épouse, il ne lui inflige pas toutes sortes de punitions. Il a déjà trouvé grâce aussi devant elle. Elle a trouvé grâce devant lui. Il se fiance avec elle. Et s'il y a quelque chose, il va la garder de tout ce dans quoi elle pourrait être entraînée. Sa grâce est tellement grande sur eux. Et elle le sera aussi sur l'épouse. Et elle l'est sur l'épouse. Créatures indignes que nous sommes, qui méritions l'enfer, mais c'est par sa grâce que nous passons au travers. Regardez combien il y a de gens perdus et aveugles. Combien y avait-il de pécheurs dans le monde alors où j'ai été sauvé? Dieu m'a sauvé dans un but, et je suis déterminé par sa volonté à accomplir ce but-là. Comment tout le reste peut aller, ça m'est égal, je veux accomplir cela. Et alors où je vois toutes les églises, leurs grands tapes à l'œil, et riches, et qui n'ont besoin de rien, à ce qu'elles disent, et de les voir misérables, malheureuses, aveugles, et les gens qui vous donnent des tapes sur l'épaule, ils veulent que vous fassiez des compromis avec eux. Je suis né dans un but, c'est de condamner cette chose-là et de lancer un appel à l'en sortir. Et c'est ce que je fais. Souvenez-vous, quand Jésus est venu sur terre, il n'y a pas 1% des gens qui étaient sur la terre qui n'ont jamais su qu'il était là. Il est venu chercher ce groupe des élus. Il a dit, « Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'a attiré. » Et tous ceux que le Père m'a au passé donné, ils viendront, ils sauront, ils écouteront cela. Remarquez cet esprit ecclésiastique qui est délié. Maintenant, 20 ans plus tard, après cette guerre, nous voyons l'esprit ecclésiastique qui est délié. Sous quoi? Le septième sceau. La septième trompette pour les Juifs. Regardez la lune qui s'est obscurcie. Sous quoi? Voyez, elle se retire, le Fils de l'homme qui est chassé de l'Église. Qu'est-ce que c'est? Une union avec le groupe ecclésiastique. Le mouvement œcuménique et par le Conseil mondial des Églises a entraîné tous les hommes. Cette chose-là, ça veut dire quoi? Eh bien, vous devez renoncer à tous vos enseignements évangéliques et tout. Comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Ils ne peuvent pas, Jésus a dit qu'ils ne peuvent pas. Et comment une église, les méthodistes et les baptistes, peuvent-ils marcher ensemble? Comment l'église du Christ peut-elle marcher avec les presbytériens? Comment les catholiques peuvent-ils marcher avec les protestants? Comment les protestants peuvent-ils marcher avec les protestants? Mais l'épouse peut marcher avec la parole qui est Christ. Il doit y avoir un accord, pas le système ecclésiastique, mais la parole. Vous devez être d'accord avec la parole pour marcher avec la parole. Jésus l'a dit. Alors, c'est forcément vrai. Remarquez, la voilà maintenant, elle est relâchée, et ainsi elle dit que tous ces petits points qui étaient restés en suspens, oh, eh bien, ça ne change rien de toute façon. C'est ce que Satan a dit à Ève, ça ne change rien. Ça ne fait rien. Certainement que Dieu est un Dieu bon. Il nous aime tous. Pas du tout. On entend tellement dire qu'il est un Dieu bon, il est un Dieu bon, mais puisqu'il est bon, il doit être juste. Il n'y a pas de bonté sans justice. Il n'y a pas de justice sans loi, sans peine, sans sanction. Alors c'est à cette heure-là que nous sommes, que nous vivons. Remarquez rapidement là ces démons surnaturels. Alors, sous les auspices d'une nation unie, de groupes qui se sont unis, l'Est et l'Ouest. C'est comme le pied droit et le pied gauche de la statue que Daniel a vue. Ils n'allaient pas se mettre d'accord et s'allier. Et le mot Eisenhower, à ce moment-là, Eisenhower, ça veut dire fer. Khrushchev, ça veut dire argile. Et il a enlevé son soulier et il a frappé avec, sur la table, dans la Société des Nations, ou l'eau, à l'ONU. C'est ce que Khrushchev a fait. Il a ôté la poussière de « Oh là là, l'heure où nous vivons, l'Église et sa condition. » Mais Dieu merci, la petite épouse s'est préparée. Ça ne tardera pas. Continuez simplement à tenir ferme. Ça ne va pas tarder. Je ne sais pas dans combien de temps, je ne sais pas quand, personne ne le sait, mais nous savons que c'est proche, là, très. Regardez l'Ecclésia. Regardez dans le naturel, là, ce qui a été fait à ces Juifs. Ils étaient un peuple qui s'en tenait aux lois de Dieu. Combien d'églises se formaient, et quoi encore? Ça ne comptait pas. Pour ce qui est de Christ, ils étaient aveuglés, et ils s'en tenaient à la loi. Et Dieu leur a donné des robes à chacun d'eux parce qu'ils ont eu à subir le martyre. Voyez, ils ont été aveuglés à cause de nous. Voici maintenant que l'Église, qui ne connaît rien d'autre que la Bible, ils ne se préoccupent pas du système ecclésiastique, de la dénomination, ils ne connaissent rien de ces choses. Tout ça, ça leur est étranger. Ils le connaissent, lui et lui seul. Les gens d'aujourd'hui sont un peu comme Pierre et les autres quand ils étaient sur la montagne de la Transfiguration. Ils étaient tout emballés de voir quelque chose de surnaturel se produire et l'un d'eux a dit, « Nous allons former une Église des prophètes et une pour Moïse. » C'est comme ça que les gens ont fait. Les pentecôtistes, ils ont dit, nous allons en former une, l'Assemblée de Dieu, et une, l'Église de Dieu, et une, les unitaires, et une, les binitaires, et ainsi de suite comme ça. Mais comme il parlait encore, Jéhovah s'est écrié, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui est la parole. Écoutez-le. » Voyez? Il est la parole. L'heure où nous vivons, les esprits ecclésiastiques qui s'unissent maintenant, et qui les mènent toutes à cette grande boucherie pour exterminer. C'est déjà par écrit ici, dans ce pays maintenant, que ces églises-là devront être fermées à moins de faire partie de l'organisation. C'est une union, c'est un boycottage, exactement comme la marque de la bête. Maintenant, vous voyez ce qu'est la bête, n'est-ce pas? C'est un pouvoir. Et un pouvoir ecclésiastique. Jésus a dit que ce serait tellement proche de la vraie chose que ça séduirait même les élus, si c'était possible. Mais il a promis qu'il y aurait quelque chose ici pour nous en ce jour-là pour que nous ne soyons pas séduits, et c'est la parole, et Christ pour nous la manifester. Ce sont des démons surnaturels, invisibles à l'œil, mais vous pouvez voir ce qu'ils font. Voyez? Remarquez, pendant que ce groupe-là chevauche, qu'ils se préparent à écraser tout ce qui n'est pas d'accord avec eux, il y a un autre groupe qui est préparé un peu plus tard, Apocalypse 19. La prochaine fois qu'on entend parler de l'Église, elle vient. Elle aussi, pas précisément sur des chevaux, mais la Bible dit, il montait un cheval blanc, et l'armée du ciel le suivait sur des chevaux blancs. Pas vrai? Pendant que le groupe d'ici en a 200 000 liés sur le fleuve d'Euphrate, et qu'ils sont liés depuis 2000 ans, il y a aussi cette Église qui a lié le Saint-Esprit depuis près de 2000 ans, pendant cette période où ils ont eu à subir le martyre, et pendant les âges de l'Église, il a été lié, pas sur le fleuve d'Euphrate, mais à la porte des credos et des dogmes, si bien que le Saint-Esprit ne peut pas agir dans l'Église à cause des systèmes faits de main d'homme. Mais elle va être libérée. Elle va revenir, c'est ce que la Bible dit. Et les deux vont s'affronter sur le champ de bataille. Lucifer et Michel, de nouveau, comme au commencement. Ils sont liés depuis 2000 ans presque. Presque 2000 ans. Pas tout à fait 2000, parce que les Romains ont continué à agir, Titus en l'an 96 de notre ère, et ainsi de suite comme ça, pour tuer les Juifs, les Romains. Qui a tué les Juifs? Qui était Titus, un général romain? Le sang coulait sous les portes là-bas, jusqu'à... Oh, et on les a massacrés, les femmes, les enfants et tout. N'est-ce pas ce qu'Ézéchiel 9 avait dit qu'ils allaient faire? Passe au milieu de la ville et fait une marque sur les gens qui soupirent et qui gémissent. Le Saint-Esprit et les autres, les hommes qui massacraient sont venus, ils avaient été liés, retenus, jusqu'à ce qu'ils sortent et qu'ils massacrent tout ce qu'il y avait là-bas. Des jeunes femmes, des enfants, des bébés, tout le reste, ils ont tous été massacrés. Exactement. Et maintenant encore, voici la chose qui se répète. Et voici ce système ecclésiastique qui revient à la charge, qui réprime et qui piétine tout ce qui s'appelle Dieu. Oh, ils ont leur système, leurs organisations et leurs dénominations. Mais ça, ça n'a rien à voir avec la Bible. Ils vous diront tout de suite qu'ils n'y croient même pas. Oui, monsieur. dites ce que l'Église dit. C'est ce que Dieu dit qui compte. C'est la parole. L'Épouse en tient aux paroles. Ils sont un. Comment peuvent-ils être un quand cette parole qui est écrite là vient en vous alors? Alors vous et la parole devenez un. C'est exactement ce qu'il a promis. Alors elle s'interprète. Dieu n'a pas besoin d'un interprète. Ils disent, eh bien, nous l'interprétons comme ceci. Vous n'avez aucun droit d'interpréter quoi que ce soit. Dieu en fait lui-même l'interprétation. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Qui interprète cela? Il a dit, une vierge concevra et elle l'a fait. Ça n'a pas besoin d'un interprète. C'est déjà interprété. Dieu a dit que ces choses arriveraient en ce jour-ci et elles arrivent. Ça n'a pas besoin d'interprétation. Ça s'interprète tout seul. Oh là là! Apocalypse 9.1, sous la cinquième trompette, le roi... Remarquez, Apocalypse 9.1, maintenant le roi de ce grand groupe de 200 000 chevaux, ils avaient un roi qui les gouvernait, et si nous remarquons, c'était une étoile qui était tombée. Pourquoi es-tu tombé des cieux, Lucifer? Oh, le Dr. Smith, là, il a vraiment tout mélangé ça, mais ça ne fait rien, voyez-vous. Ce n'était pas pour son honneur à lui, voyez, bien. C'était l'abîme. Ils avaient comme roi le roi de l'abîme. Apocalypse 17.8. J'ai noté quelque chose ici, je vais simplement le lire. Vous voyez ici Apocalypse 17.8, je veux voir ce qui est dit ici, parce que je ne sais pas au juste comment aborder le point suivant, 17.8. Et la bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Vous voyez, était, un pape, il meurt et un autre monte. La bête qui était, qui n'est plus, qui est, qui n'est plus, qui est. Ça ne change pas le régime, c'est le pape, même temps et tout. Tout doit s'intégrer dans le même système. Et elle doit aller où? Dans les abîmes. Et la Bible dit ici que le chef de ces gens-là venait des abîmes, et c'était lui leur roi. Il est assis avec une triple couronne, et il rallie les protestants. J'ai entendu un prêtre luthérien dire l'autre jour, il disait, ou un prédicateur luthérien, il disait, « Eh bien, les gens me demandent pourquoi je porte un col. Comment va-t-on me différencier du... » Étais-tu là? Oui, ça, c'était vraiment ridicule, n'est-ce pas? J'ai presque eu envie de vomir, je suis descendu de l'estrade. Il disait, en effet, il ne devrait pas y avoir de différence. Si Luther, Martin Luther, entendait ça, il se retournerait dans sa tombe, il dirait, « Hypocrite, vous n'êtes pas dans les rangs avec les miens. » Oui, voyez? Mais savez-vous où ça en est maintenant? Il n'y a pas de différence. Il y a une différence. Il y a même des différences entre les individus. Dieu a dit, « Mettez-moi à part, et Paul et Barnabas. » C'est exact, pour l'œuvre. Mettez à part. Dieu, c'est quelqu'un qui met à part, pas quelqu'un qui mélange. Quelqu'un qui met à... L'Église veut quelqu'un qui mélange bien aujourd'hui, qui va leur permettre de porter des maillots de bain et des shorts, et tout le reste, et de sortir et faire n'importe quoi comme ça. Mais Dieu a dit, « Mettez-moi à part, séparez-vous du monde. » Dans Apocalypse, nous voyons ici que leur roi venait des abîmes, et c'était le même qui allait à la perdition, venait, repartait, s'en allait. Remarquez dans le Lévitique, au chapitre 23, comme l'interprétation est parfaite selon l'ordre de la parole, ce que nous essayons de vous apporter en ce moment. Regardez bien ceci maintenant, l'ordre. Maintenant, nous remarquons. Prenons-le donc et lisons-le un petit instant dans Lévitique. Lévitique 23, maintenant remarquez bien ceci. Lévitique, chapitre 23, là. Et nous ne voulons pas du tout que ceci nous échappe, là, pour que nous puissions le saisir exactement, tel que le Seigneur l'a écrit ici pour nous. Je ne vais certainement pas trouver le Lévitique dans l'Exode, n'est-ce pas? Bien, le Lévitique. Bon. L'Éternel, verset 23, « L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. » Convocation. Voyez? Vous ferez l'œuvre servile et vous n'offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Maintenant, regardez bien. Maintenant, remarquez. L'Éternel parla, Moïse, et dit, le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des expiations. Voyez-vous, l'expiation venait après le... Regardez bien, là. L'expiation venait après le son de la trompette. Voyez? Comme c'est beau. Voyez, le jour de l'expiation venait après la trompette. Maintenant, les 50 jours des trompettes, pour nous, ils symbolisent le temps où la trompette a sonné à la Pentecôte, et c'était 50 jours. Maintenant, après, les Juifs ont rejeté cela. Maintenant, les trompettes doivent les appeler à revenir à cette expiation, voyez-vous, l'expiation qu'ils avaient rejetée. Ils ont rejeté pour que nos yeux à nous puissent être ouverts. Les leurs ont été fermés. Et pendant cette période-là, les sceaux ont été ouverts et les trompettes ont sonné. Et maintenant, pendant que les trompettes sonnent, juste avant que le Messie vienne, parce qu'il faut qu'il soit en Palestine. Et souvenez-vous, Dieu a dû endurcir le cœur de Pharaon pour pouvoir les chasser hors de l'Égypte. Et il a endurci Staline, Mussolini et tout pour pouvoir les ramener dans le pays promis, où les 144 000 devront être. Et maintenant, pour la première fois depuis des milliers d'années, 2500 ans, Israël est une nation avec son propre drapeau, sa propre armée et tout, et elle a sa place à l'ONU. C'est la première fois. Le drapeau le plus ancien qui a jamais flotté au vent sur cette terre, il flotte de nouveau en ce moment. L'étoile de David à six branches. Il a dit qu'il élèverait cet étendard dans les derniers jours, quand il reviendrait. Nous sommes à la fin. Il n'y a absolument pas de doute là-dessus. Nous y sommes. Remarquez maintenant, rapidement, Apocalypse 9, sous la septième trompette, le roi vient des abîmes. Et puis dans le Lévitique, là, l'interprétation concorde ici vraiment parfaitement avec la parole. En effet, vous voyez tout de suite après le jubilé de la Pentecôte, le jour de l'expiation venait après. L'ordre d'enchaînement de cette période des fêtes, de la fête de la Pentecôte jusqu'à l'expiation, les trompettes qui sonnent pour l'expiation, il y avait la fête de la Pentecôte, cette longue période de temps. Regardez, il y avait une longue période de temps entre la fête de la Pentecôte jusqu'à l'appel des trompes, jusqu'à ce que les trompettes sonnent, qu'on fasse sonner les trompettes, une longue période de temps. Franchement, il y avait 50 jours à partir de... À partir de la fête de la Pentecôte jusqu'à la fête de l'expiation, il y avait 50 jours. Or, 50 jours, c'est exactement 7 sabbats. Et 7 sabbats, ce sont les 7 années de l'Église, âge de l'Église. Vous saisissez? Voyez? Or, les Juifs ont été aveuglés, ils ont attendu pendant toute cette période au cours de laquelle les prémices de la Pentecôte ont été répandues sur l'Église. Nous avons traversé les âges des martyrs et les âges des réformateurs, et maintenant nous sommes à l'âge de l'appel à sortir. 3 sections, le même esprit. Comme Père, Fils et Saint-Esprit, c'est le même, voyez? Mais 7 âges de l'Église qui sont 7 sabbats. Exactement 7 sabbats, à partir de la trompette du jubilé de la Pentecôte, la fête du jubilé de la Pentecôte jusqu'à la gerbe qu'on agitait, et ensuite le jubilé de la Pentecôte. Ensuite, du jubilé jusqu'à l'expiation, il y a 7 sabbats, 50 jours, et au bout des 50 jours, c'est l'expiation qui est faite. Vous saisissez? Maintenant, et ceci a été un type que l'Église, quand il s'est révélé comme Fils de Dieu, alors il s'est révélé à l'Église par le baptême du Saint-Esprit tout au long des âges, pendant l'âge pentecôtiste, vous voyez, toujours de plus en plus, la justification avec Luther, la sanctification avec Wesley, le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, c'est la période de l'appel à sortir. Au sixième sceau, quand il s'est ouvert, la persécution a frappé les Juifs au point de vue littéral. Et voici la persécution de l'Église au point de vue ecclésiastique. En effet, l'épouse est déjà appelée. Les sabbats ont pris fin. Tout est prêt pour que les Juifs soient appelés. À quoi? À la fête de l'expiation. Ô Église, vous voyez ça, n'est-ce pas? Appelés à la fête de l'expiation, quoi? Pour reconnaître l'expiation. Plus de poulets et d'oies, et ce qu'il faisait avant. L'agneau de Dieu, immolé dès la fondation du monde. Israël reconnaîtra cela. Remarquez, voici quelque chose de glorieux. Regardez. Oh là là! Le Saint-Esprit a été lié par les dénominations tout au long de ces 2000 ans. Nous voyons qu'il l'a été. Maintenant, remarquez les sabbats, les 7 sabbats, ils n'ont pas réussi à se dégager complètement. La Bible dit, il y aura un jour qui ne sera ni jour, ni nuit, ni jour. Et toute l'Écriture, Jésus a dit, doit s'accomplir. Pas vrai? Dites Amen. Le prophète a dit, il y aura un jour dont on ne pourra dire si c'est le jour ou la nuit. Mais au temps du soir, la lumière paraîtra. Qu'est-ce que c'était? Le même soleil qui brillait à l'est, c'est le même soleil qui brillait à l'ouest. Chaque fois que le soleil se lève, qu'il accomplit sa course et qu'il se couche, ça représente votre vie. Un petit bébé naît, il est faible le matin, vers 8 heures il va à l'école, à 11 heures et demie il sort de l'école, au plus chaud de la journée. Ensuite, il commence à descendre, 50 ans, 60, 70, 80, 90. Il se couche là-bas et il meurt, seulement pour revenir le lendemain et dire « il y a une vie, une mort, un ensevelissement, une résurrection ». Et remarquez, la civilisation a fait comme le soleil. La civilisation la plus ancienne que nous ayons, c'est la Chine. Tout le monde sait ça. Où le Saint-Esprit s'est descendu, sur le pays oriental, sur les gens de l'Orient. Et l'Évangile a parcouru le même trajet que le soleil. Il est parti d'où? De là-bas en Orient pour aller en Allemagne, de l'Allemagne en Angleterre. Il a traversé la mer trois fois, la Méditerranée pour aller en Allemagne, de l'Allemagne, de la Méditerranée, de l'Orient pour aller en Allemagne. Il a traversé la Méditerranée. De l'Allemagne, il a traversé la Manche pour aller en Angleterre. De la Manche, il a traversé le Pacifique pour aller où? L'Atlantique pour aller aux États-Unis. Maintenant, il est sur la côte ouest. Il a traversé le pays qu'il a civilisé, il a fait son chemin et il a continué. Le trajet de la civilisation, l'Évangile a fait le même trajet avec elle. Maintenant, toute la racaille est sur la côte ouest, où tout cela s'est amassé comme un raz de marée qui pénètre. Mais le prophète a dit, le Fils ne brillera pas tout au long de ce jour. Ce sera un jour ténébreux. Ils ont eu assez de lumière, comme un jour très pluvieux, pour leur permettre d'adhérer à l'Église, de croire au Seigneur, et ainsi de suite, comme ça. Mais il a dit, au temps du soir, les nuages se dissiperont, les dénominations s'éteindront, et le même Évangile, la même parole faite chair, comme il l'a promis dans Luc 17, 33. Le même Évangile avec la même chose se produira au temps du soir, juste au moment où les ombres tombent. Le même Évangile, le même Christ qui a vécu dans la chair là-bas au commencement, sur les gens de l'Orient, il vivra de nouveau dans les gens de l'Occident au temps de la fin. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Toutes les Écritures sont inspirées et ne peuvent pas être anéanties. La longue période de 50 jours est passée. La fête de la Pentecôte est passée, 7 sabbats, jusqu'aux trompettes, un type du 7e âge de l'Église. Souvenez-vous, sous la 6e trompette, les Juifs... Écoutez-vous, sous la 6e trompette, les pentecôtistes rejettent la Bible. Les tièdes, pas seulement les pentecôtistes, mais tous les autres. Le monde de l'Église rejette Christ et on le met dehors. Et dans la même trompette, et le même saut plutôt quand il a été ouvert pour montrer Jésus qui est à l'extérieur de l'Église, cherchant à y entrer de nouveau, au même moment la trompette sonne pour les Juifs et les Juifs reconnaissent l'expiation. Gloire! Alléluia! Oh là là! Le Saint-Esprit a été lié par ses fleuves dénominationnels depuis près de 2000 ans. Mais il doit être délié au temps du soir, par le message du temps du soir. Le Saint-Esprit dans l'Église, de nouveau. Christ lui-même, révélé dans la chair humaine, au temps du soir. Il a dit, il l'a promis. Il y a eu trois étapes, comme je le disais. Les martyrs, l'âge du martyr à cause de cela. Ensuite, l'étape des réformateurs et maintenant la période de l'appel à sortir. Quand il serait mené à terme, à l'âge de l'Odyssée, selon Apocalypse 10, le mystère de toute la Bible serait divulgué à l'épouse. Pas vrai? Apocalypse 10, écoutez bien là. Oui, l'épouse appelée à sortir par la parole. Christ lui-même qui appelle l'épouse à sortir, qui montre clairement ce qu'il en est d'Hébreux 13, 8, qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, qu'il fait la même chose, qu'il est le même. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Voyez Luc 22 ou Luc 17, 30 et aussi Malachie 4, Hébreux 4, 12. Toutes ces écritures qui ont été promises, tout ceci doit se passer entre le 6e et le 7e saut, et la 6e et la 7e trompette. La fête de la Pentecôte se termine à la période de la 7e trompette, car ensuite c'est la venue du 7e sceau, car ensuite c'est le mystère de la venue de Christ, et aussi la trompette sonne pour les Juifs. Leur 6e trompette sonne, et à ce moment-là, c'est ce qui leur fait connaître le Fils de Dieu révélé. Une durée d'une demi-heure. Souvenez-vous, toutes les trompettes sonnent au 6e sceau. Le 6e sceau mène à terme le mystère sous le 6e sceau, juste avant que le 7e soit ouvert. Remarquez, ici, il y a Lévitique 23-26. Comme l'Écriture s'enchaîne avec ordre, après la longue période de la Pentecôte, où Israël a effectivement rejeté, à cette époque-là, et il a appelé l'Église des nations à sortir au long de cette fête de la Pentecôte. Combien comprennent ce qu'est la fête de la Pentecôte? C'est le fruit des prémices de la moisson, les prémices de la résurrection, la fête de la Pentecôte. Ne manquez pas ceci, les amis. Et vous qui êtes à l'écoute de la bande, écoutez bien. Ceci a été la période de la fête de la Pentecôte. Les Juifs sont restés silencieux, ils l'ont rejeté. Maintenant, ils doivent être appelés à revenir à l'expiation. Nous, nous savons qui était l'expiation. Eux ne le savaient pas. La trompette qui sonne après le jubilé de la Pentecôte, elle appelle les Juifs à se rassembler. Ne voyez-vous pas comment cette trompette de la persécution sous Hitler et les autres a retenti? Et les Juifs ont été forcés de se rassembler pour accomplir les Écritures. Maintenant, avez-vous saisi? Tous ceux qui saisissent, dites « Amen ». Bon, très bien. Remarquez ici dans Lévitique 26, maintenant, l'ordre d'enchaînement des Écritures. Après la longue période de la Pentecôte qui se termine par l'appel à sortir de l'épouse, l'épouse est appelée à sortir par un serviteur, le rejeté ensuite qui se fait connaître à Israël, la fête de l'expiation. Remarquez ici, c'est la même chose que dans Lévitique, chapitre 16, là, quand il a établi l'ordre d'enchaînement de la fête de la Pentecôte, ou la fête de l'expiation, mais ici, ils sont appelés. Oh, comme c'est parfait! Saisissez-le, prédicateur, voyez? Ne le manquez pas, ministre! Dans cette fête de la Pentecôte qui est représentée dans Lévitique 23-26 ou 23-24, c'est une fête de deuil, pas une fête pour immoler. La fête était immolée, ou plutôt l'expiation était immolée. L'expiation était immolée. Lévitique 16, c'est un parallèle exact de cela. Seulement ici, c'est l'appel d'Israël à être dans le deuil à cause de ses péchés. Comme c'est parfait aujourd'hui, il ne s'agit pas de l'immoler de nouveau, ce qui a d'ailleurs été montré en symbole par Moïse quand il a frappé le rocher la deuxième fois. Ça n'a pas marché. Ce n'est pas une fête pour immoler, mais un deuil, pour avoir rejeté l'expiation. Oh là là! Voilà ce que sera la trompette, la fête d'être rejeté et ensuite leur Messie qui se fait connaître. Remarquez, ils reconnaîtront leur Messie quand ils le verront. Il viendra avec puissance cette fois, celui qu'ils ont attendu, il viendra avec puissance pour l'épouse des nations, et les Juifs vont le reconnaître. Et puis la Bible dit, nous venons de prêcher là-dessus ici il y a peut-être 6 mois ou plus, la Bible dit quand ils diront, « D'où viennent ces blessures que tu as? Combien se souviennent du message? Levez la main. » Bien sûr, vous voyez, d'où viennent ces blessures que tu as? Il a dit, de la maison de mes amis. Vous vous souvenez quand j'ai prêché sur la fois où Jacob avait envoyé les enfants d'Israël là-bas chercher des choses, de la nourriture et des choses, et Joseph a fait semblant de ne pas les connaître, et toutes ces choses qui se sont passées, et ensuite il s'est fait connaître. Vous vous en souvenez? Ils ont eu tellement peur qu'ils se sont mis à pleurer. La détresse de Jacob, même chose. Ici, nous voyons les Juifs qui sont persécutés. Ils ne savent pas à quoi s'en tenir en ce moment, mais ils reviennent. Et quand effectivement, ils verront apparaître l'expiation, et la Bible dit, quand ils disaient qu'ils se retireraient, chaque foyer séparément, qu'ils allaient pleurer pendant des jours comme une famille qui aurait perdu son fils unique. D'où te viennent ces blessures? Il a dit, de la maison de mes amis, voyez. Souvenez-vous, l'épouse est déjà dans le ciel. L'épouse de Joseph était dans le palais, et Joseph a fait sortir tous ceux qui étaient autour de lui, et il s'est fait connaître à ses frères. Vous voyez, son épouse et ses enfants et tout, ils étaient dans le palais quand il revient pour se faire connaître aux Juifs. Voilà l'expiation. La voilà, votre trompette qui sonne. C'est là qu'ils disent, « Oh, qu'en est-il? » Voilà l'expiation. D'où viennent ces blessures? Voilà ce qu'il en est. De la maison de mes amis. Vous vous souvenez de ce que les frères de Joseph ont dit? Mais ils ont dit, « Maintenant, on va se faire tuer, c'est sûr et certain. On a fait ça. On a fait cette vilaine chose-là. » Il a dit, « Non, Dieu l'a fait pour sauver des vies. » Vous vous souvenez de l'histoire dans la Genèse, voyez? Voyez? Et de même, s'il agit ainsi, c'est pour sauver la vie de ceux des nations, l'épouse. Il a dit, je les ai reçus dans la maison de mon ami. Mais ne soyez pas fâchés, voyez-vous, ne craignez pas pour vous-même. Ils disent, oh là là, vraiment, nous ne l'aurions pas reconnu? Est-ce que c'était l'expiation et nous ne l'avons pas reconnu? Oh Dieu! Il disait qu'il se retirerait et serait dans le deuil pendant des jours. Qu'est-ce que c'est? L'expiation, le chagrin. Ce temps-là, c'est devenu pour faire connaître l'expiation. Ce n'est pas l'expiation habituelle qui est immolée, comme dans Lévitique 16. Mais Lévitique 23, c'est un temps de deuil à cause de leur péché. Et leur péché, c'était qu'ils avaient rejeté l'expiation. Oh, ne voyez-vous pas où nous en sommes? Ne voyez-vous pas pourquoi ces trompettes n'ont pas d'importance pour nous? Elles ont toutes sonné sous notre sixième sceau. Vous voyez maintenant pourquoi le Saint-Esprit ne m'a pas permis d'en parler? Et le Père Céleste sait avec cette Bible devant moi que c'est la vérité. C'est seulement hier, avant-hier, que je l'ai su dans mon bureau. Là, il me l'a révélé, il est venu à moi, il m'a parlé. Je suis revenu, j'ai dit, ma femme, maintenant, j'ai compris. Il vient juste de venir me voir, là, et il m'a dit ce qu'il en est. Voici ce qu'il en est, chérie. Voyez? Voyez-vous, voilà ce qu'il en est. Voyez-vous, cela concorde parfaitement. Oh, vous qui êtes sans lui, entrez vite. C'est peut-être la dernière occasion que vous pourrez jamais avoir. Vous ne savez pas à quel moment il pourrait venir.
La fête des trompettes, la Bible dit qu'il se retirerait chacun séparément et qu'il prierait et pleurerait parce qu'il serait comme quelqu'un qui a perdu son fils unique. Regardez, je veux dire encore une chose, soyez attentifs, là, ne manquez pas ceci. C'est vraiment saisissant. Du message du septième ange, le messager du septième sceau, dans Apocalypse 10, ce qui était le septième sceau, jusqu'aux sept trompettes, entre ces deux moments-là. Oh Dieu, comment le dire pour que les gens le voient? C'est entre cette sixième trompette et la sixième trompette et la sixième trompette et le sixième sceau sonnent en même temps. Et entre la sixième trompette et la septième trompette, un prophète doit se présenter devant ceux des nations pour appeler les gens à revenir à la doctrine pentecôtiste originelle. Et les deux témoins d'Apocalypse 11 se présentent aux Juifs pour les diriger vers Jésus pendant que l'Église est enlevée. Tous des prophètes. Amen. La parole du Seigneur ne peut pas être anéantie. Ce ne sera pas une dénomination. Le voyez-vous? Lisez-le dans votre livre ici. Voyez si ce n'est pas entre la sixième et la septième trompette que cela s'insère, que les Juifs sont appelés entre le sixième et le septième fléau, qu'on en arrive aux 144 000, vous vous en souvenez? Ce qui se passe entre les deux. Vous vous souvenez, entre le sixième, le cinquième sceau et le sixième sceau? Entre le sixième sceau et le septième sceau, il y avait l'appel des 144 000. Vous vous en souvenez? Or, c'est là que s'insère cette trompette, exactement là, voyez-vous, et la persécution et les chevaux qui sont déliés là. Et alors, entre les deux, alors il devait y avoir un message du septième ange, qui avait prêché et condamné les pentecôtistes. Et Jésus avait été expulsé, il n'y avait aucune collaboration avec personne, mis dehors, rejeté. La Bible le dit. En effet, c'est Christ manifesté parmi nous. Jésus parmi nous tous, manifesté dans la pureté de sa parole, la faisant connaître. Et si c'est, ceci n'est pas simplement une invention, mes amis, c'est ainsi dit le Seigneur, l'Écriture. Et au même moment, maintenant dès que cette Église, l'Épouse, est rassemblée, elle est enlevée. Ce mystère du septième sceau, le mystère du départ, les Juifs, eux, sont appelés par le mystère de la septième trompette. Il s'agit de deux prophètes, Élie et Moïse, qui reviennent. Et c'est là-dessus que les pentecôtistes sont tous déboussolés. Ils s'attendent à ce que quelque chose se produise. L'Église est déjà partie. Ça, c'est pour les Juifs. Bon, je sens que dans son esprit, quelqu'un se dit, ça ne peut pas être Moïse. Oui, c'est lui. Maintenant, souvenez-vous, il peut me dire ce que vous pensez. Oui, oui. Je sens constamment cette rire. Bien. Permettez-moi de redresser la chose pour vous. C'était bien Moïse. En effet, voici ce que vous pensez. Vous dites que Moïse, ça ne peut pas être Moïse parce que Moïse est mort. Vous pensez que c'est Élie. C'est Élie, c'est Élie, vrai. Mais vous pensez c'est Enoch. Vous dites Moïse est déjà mort, mais souvenez-vous, il peut revenir à la vie. Il l'a fait. 800 ans plus tard, plusieurs centaines d'années plus tard, il est apparu sur la montagne de la Transfiguration. Vous dites après qu'un homme est déjà mort. Oui, monsieur. Lazare était mort, il est ressuscité, et ensuite il a dû mourir de nouveau. Voyez? Certainement, oui. Et même les méchants reviendront à la vie de nouveau, et ensuite ils devront mourir de la seconde mort. Pas vrai? Alors chassez ça de votre esprit, c'est bien Moïse. Observez le ministère que vous avez là. Très précisément ce que Moïse et Élie avaient fait. Fermez les cieux et arroser de feu. Vous connaissez ces choses, ce qu'ils ont fait. Pensez-y, c'est le temps de la fin, les amis. Alléluia! Le grand jour de l'Éternel est proche. Rassemblez-vous. La fête du Messie. Ils l'auront rejeté, ils se rendront compte que c'est là leur Messie. La Bible dit que des choses saisissantes comme ça se produiraient. Dans Apocalypse 11, l'appel, leur ministère, ce sera le ministère de Moïse et Élie, qui appelleront Israël à sortir des traditions judaïques. Exactement comme le message du septième ange a appelé l'épouse à sortir de la tradition pentecôtiste. Souvenez-vous, Moïse et Élie doivent appeler Israël à abandonner l'ancienne expiation, l'agneau, les brebis, le sang, les boucs, le sacrifice, pour se tourner vers le vrai sacrifice vivant, vers la parole. Et le message du septième ange, sous la même trompette, la même chose en tout point, exactement le même sceau, c'est pourquoi appeler les gens, l'épouse, à sortir de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde, pour se tourner vers la véritable expiation, la parole, Christ, personnifié dans sa parole ici, fait chair parmi nous. La science l'a prouvé par des photos. L'Église le sait dans le monde entier. Nous le savons fermement, car il ne nous a jamais dit une seule chose par l'ainsi dit le Seigneur qui n'a été la vérité. N'a-t-il pas dit là-bas à la rivière, comme Jean-Baptiste a été envoyé, il en sera de même de ce message? J'ai levé les yeux, elle indique 12 heures. Minuit est là, mes amis, sur nous. Vous voyez comme l'Écriture est parfaite? Parfaitement. comme elle l'a regardé, ce ne sera pas une organisation quelconque qui va aller là-bas appeler les Juifs. Ce sera deux hommes, Moïse et Élie, prophètes tous les deux. Maintenant, regardez. Pour appeler ceux des nations, l'épouse à sortir, il a promis dans Malachie 4 de faire la même chose. Et la Bible dit qu'il sera expulsé de l'Église au septième âge de l'Église. Il sera expulsé de l'Église, il y aura un obscurcissement complet, et il y aura où se produit l'obscurcissement. Alors qu'elle entre dans ce système ecclésiastique, dans ce conseil œcuménique, le conseil mondial des Églises, elle, il est expulsé complètement. Sa parole, ils ne peuvent pas être d'accord avec elle. Vous savez qu'ils ne peuvent pas. Ils n'arrivent même pas à être d'accord entre eux, dans leurs groupes locaux. Comment vont-ils être d'accord là-dessus? Alors, ils prennent une autre marque de la bête, une image à la bête. Souvenez-vous, la Bible dit qu'une image a été faite à la bête. Et les États-Unis, ici, ont toujours été le nombre 13. Ils ont commencé avec 13 États, 13 colonies, 13 étoiles, 13 bandes, le nombre 13 est toujours une femme. Elle apparaît au chapitre 13 de l'Apocalypse, et au début, c'est un agneau, la douceur, la liberté de parole, la liberté de religion et tout. Et ensuite, ils reçoivent autorité, et ils parlaient avec toute l'autorité que le dragon avait eue avant lui. Qu'est-ce, le dragon, qu'est-ce que c'était? Rome. Voyez-vous, il y a eu une marque, une image à la bête qui s'est élevée contre la vraie Église de Dieu. Avec les dénominations pour l'appuyer, il va la harceler. Mais quand ils se mettront en branle, l'agneau prendra son épouse pour qu'elle soit à ses côtés. L'armée céleste sera là, viens au repas. Oh, ce sera un glorieux jour, tous les saints vêtus de blanc, avec Jésus, festoieront éternellement. Amen. Viens souper, le maître appelle, viens souper. Amen. Quel jour que celui où nous vivons, cette heure-ci. Sauvez-vous, les amis, sauvez-vous à toutes jambes. Maintenant, remarquez pour conclure, le ministère comme celui du septième ange, les deux témoins, la septième trompette juste avant, ou la sixième trompette juste avant la septième trompette. Maintenant, souvenez-vous, je vous ai dit que je reviendrai sur cette grande trompette. Il a dit, qu'est-ce qu'il allait faire ici dans Ésaïe? Il a dit, la grande trompette sonnerait. La grande trompette, pas les trompettes, là. La fête des trompettes, il y en a deux. Moïse et Élie pour faire l'appel de la trompette. Mais sous la grande trompette, la venue du Seigneur pour annoncer le retour de Joseph, voyez-vous, pour que toutes les nations se rassemblent à Jérusalem. Amen. Vous trouverez ça dans le livre d'Ésaïe. Je vous l'ai donné tout à l'heure, un des chapitres que nous avons lus, c'est dans Ésaïe 18, 1 et 3. Et dans Ésaïe 27, 12 et 13, c'est là qu'il sonne de cette trompette, et que toutes les nations reconnaîtront Israël dans sa patrie, Dieu avec elle. Alors l'épouse viendra pour être avec l'époux et l'époux avec l'épouse. Et alors, le glorieux millénium, après que le monde entier aura été détruit par la puissance atomique, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ils vivront pour toujours. Regardez, précisément sous, maintenant remarquez, le ministère de Moïse et Élie, ce sera... Maintenant, est-ce que tout le monde a saisi? Je vais le répéter. Le ministère de Moïse et Élie, entre la sixième et la septième trompette, ce sera deux prophètes qui... Israël croit toujours ses prophètes. Alors, pourquoi le Saint-Esprit m'a-t-il dit, quand je me mettais en route pour aller là-bas, leur montrer qu'il était le Fils de Dieu? Il n'a dit pas encore. Vous vous en souvenez, il y a à peu près 5 ans, j'étais en route vers l'Inde. Il a dit, ne le fais pas. Je disais, ils ont dit, s'il s'agit bien du Messie, que nous le voyons produire le signe du prophète. Nous croyons les prophètes. Frère Louis Petrus et les autres m'ont envoyé ces Bibles, quand ils en avaient distribué 1 million aux Juifs qui venaient de l'Iran et de partout, qui revenaient, qui se rassemblaient pour devenir une nation. Je me suis dit, c'est le moment pour moi. J'étais déjà au Caire, en Égypte. Il a dit, ne le fais pas maintenant, ce n'est pas encore l'heure, alors je suis rentré. Oui, oh là là, Moïse et Élie doivent faire l'appel. Le jubilé de la Pentecôte se poursuit toujours ou s'est poursuivi jusqu'à maintenant. Voyez, maintenant on doit connaître la fête des trompettes. Et celui d'ici, de Malachie 4, n'a aucun rapport avec celui de là-bas. Pas du tout, pas du tout. Remarquez, regardez bien ici, ce ministère, ce sera Moïse et Élie, qui opéreront la transition, qui appelleront Israël à sortir des traditions judaïques. Écoutez, des traditions judaïques dans lesquelles ils avaient été impliqués, comme ce sont des prophètes, ils croiront en lui. Ils les appelleront à la fête de l'expiation, Christ. Ils leur feront voir Christ. Ils diront, il vient, il sera là. Les Juifs vont se rassembler et tout. Et puis quand il viendra, il dira, me voici, voyez. D'où viennent ces cicatrices que tu as? De la maison de mes amis. Or, la même chose que ce que ces deux prophètes avaient fait. Souvenez-vous, l'épouse des nations doit recevoir un prophète, appelé Élie. Élie, qui doit les appeler à sortir de leur tradition, l'épouse. Exactement comme ces prophètes ont appelé les Juifs à sortir du judaïsme pour se tourner vers Christ. L'expiation. Ceux des nations connaissent déjà l'expiation. Mais il s'agit d'appeler l'épouse à revenir à l'expiation originelle, alors que ces 50 sabbats, tous ces sabbats, les sept dont ils se sont éloignés, les appelaient à revenir au temps de la fin. Les sept, écoutez, le messager de la septième église, le messager des sept trompettes, ils sont tous prophètes. C'est bien vrai. Les 144 000 s'insèrent là. L'appel, les sceaux qui s'adressaient à ceux des nations, forcément qu'ils s'adressaient à ceux des nations pour dévoiler à ceux des nations, pour qu'ils voient l'Église des nations. C'est tout ce que nous connaissons, c'est tout ce que nous écouterons. Écouterons ce qui est déjà du passé. Nous attendons Jésus. Vous dites un instant, là, frère Branham, je crois qu'ils vont faire ceci. Le dernier signe qu'Abraham, et nous sommes la semence royale d'Abraham, l'épouse, le dernier signe qu'Abraham a vu, avant que le signe premier arrive, que le fils premier arrive, c'était quoi? Dieu, sous la forme d'un être humain qui pouvait discerner les pensées des gens. Un seul homme, pas une douzaine, un seul homme, peu importe le nombre d'imitations, ils en ont eu un seul, et il a discerné le fond de leurs pensées. Qu'est-ce? Et ce qui s'est produit ensuite, c'est qu'Abraham et Sarah sont redevenus un jeune homme et une jeune femme. Ça, nous le savons. Maintenant, je sais que vous la trouvez un peu dure à avaler, celle-là. Mais souvenez-vous, juste pour bien m'assurer que vous le sachiez, là, on ne lit pas la Bible comme ceci, on lit entre les lignes pour voir, pour que le tableau apparaisse. Observez, Sarah était une vieille femme, dit la Bible. Et son sein était mort, pas vrai? La vie d'Abraham en lui, elle était morte, sa semence, pas vrai? Maintenant, souvenez-vous, Abraham, sa semence était morte. 40 ans plus tard, il a eu 7 fils d'une autre femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé leur corps. Regardez bien, ils ont fait un trajet de 300 000 pour se rendre à Guérar. C'était tout un trajet pour un vieil homme. Dire, Sarah pensait même qu'il ne pouvait pas avoir de relation conjugale. Elle a dit, moi, il y avait une 20aine d'années ou plus, peut-être qu'elle n'avait pas eu de relation conjugale. Elle a dit, moi, qui suis une vieille femme, et mon Seigneur aussi, nous aurions encore du plaisir comme les jeunes. Il a dit, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour Dieu? Regardez ce qui s'est passé. Instantanément, elle est redevenue une charmante jeune femme. Ce qui montrait là représentait ce qu'il va faire à la semence royale d'Abraham, pour qu'elle puisse recevoir le fils qui a été promis. Elle est redevenue une jeune. Regardez, ils sont allés à Guérar. Qu'est-ce qui s'est passé? Abimélec, le roi, est tombé amoureux d'elle. Il a dit, elle est belle, ravissante. Et il se proposait de l'épouser, pas vrai? La vieille grand-mère, il y avait toutes les autres, les jolies jeunes filles de là-bas. Mémé, elle est ravissante. Elle est belle de figure, voyez? Dieu a changé son corps. Ils sont redevenus jeunes. C'est un mystère qui doit être révélé maintenant, ce jour-ci, par le Fils de l'homme, voyez-vous? Le message du soir. Voyez? Redevenu jeune. Et le dernier signe qu'ils ont vu là, c'était quoi? Ce discernement, avant que le changement de leur corps se produise. Et avant que nous puissions recevoir le Fils, qu'est-ce qui arrive? La trompette de Dieu sonnera. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Un nouveau corps, et nous les vivants qui serons restés, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, alléluia. Et nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Le secret a été divulgué. Les sceaux sont ouverts. La trompette a sonné pour ceux d'Israël. Les deux prophètes sont sur le point d'apparaître. Qu'est-ce? L'Église doit s'éclipser tout de suite pour qu'il puisse apparaître. Il ne peut pas traiter avec deux en même temps. Il ne l'a jamais fait, voyez? Oh, frère, regardez bien. Exactement pour les appeler tous. Les appeler à sortir des dénominations et des traditions. Maintenant, nous voyons que pour l'Église de l'âge de la Pentecôte, c'est terminé. L'épouse doit sauter du chemin. Elle doit monter maintenant pour que les deux serviteurs de Dieu, d'Apocalypse, les deux prophètes puissent faire leur apparition pour faire sonner la septième trompette pour ceux-là, leur faire connaître le Christ. Le septième ange messager dira, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Non pas « Voici mon méthodiste, mon baptiste, mon pentecôtiste », mais « La parole, le Fils de Dieu. » L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, car il n'y a aucun autre fondement. Vous voyez? Combien de temps nous reste-t-il? Les Juifs sont dans leur patrie, l'épouse est appelée, tout est exactement conforme aux Écritures, à ce qu'il a promis. Nous sommes prêts. C'est maintenant l'heure. Les nations se disloquent. Israël se réveille. Les signes que la Bible a prédits. Les jours des nations sont comptés, ils sont remplis d'effroi. Retournez aux dispersés vers les vôtres. Le jour de la rédemption est proche. La peur fait défaillir le cœur des hommes. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu, vos lampes préparées et lumineuses. Levez les yeux, votre rédemption est proche. Les faux prophètes mentent. Ils nient la vérité de Dieu, que Jésus-Christ est notre Dieu. C'est vrai. Mais nous suivrons les traces des apôtres, car le jour de la rédemption est proche. La peur fait défaillir le cœur des hommes. Soyez remplis de l'Esprit, vos lampes préparées et lumineuses. Ne laissez rien au hasard. Levez les yeux, votre rédemption est proche. Le prophète a dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Le sentier de la gloire, là, tu le trouveras. C'est dans la voie de l'eau qu'est la lumière d'aujourd'hui, ensevelie dans le précieux nom de Jésus. Jeunes et vieux, repentez-vous de tous vos péchés. Le Saint-Esprit entrera certainement en vous. Les lumières du soir sont venues. Oui, c'est un fait que Dieu et Christ sont un. Nous y sommes. Nous sommes à la fin. Il ne s'agit pas de quelque idiotie qui viendrait d'un homme. C'est ainsi dit le Seigneur. Courbons la tête. Dieu miséricordieux, Jéhovah, le Tout-Puissant qui a tonné sur le mont Sinaï, et les gens se sont écriés que Moïse parle et non Dieu de peur que nous mourions. Tu as dit, grand Jéhovah, je leur susciterai un prophète. Je ne leur parlerai plus comme ceci. Mais tu as donné la promesse de ce que tu allais faire, et tu l'as fait. Tu nous as suscité le Seigneur Jésus. Il est la parole. Tu as dit qu'il l'était. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Nous voyons les choses qu'il a prophétisées pour nous ici à travers son prophète Jean sur l'île de Patmos. Nous les voyons accomplies mot à mot. Nous voyons le Saint-Esprit manifesté parmi nous ici sur terre. Nous voyons la dénomination qui le met à la porte de l'Église, la parole. Ils n'ont rien contre les gens. C'est cette parole qu'ils ont en horreur. Ça s'oppose à leur tradition. C'est exactement comme quand tu étais ici sur terre, tu étais la parole et tu allais à l'encontre de leur tradition. Ils t'ont chassé de leurs églises, partout. Et maintenant, Seigneur, il n'y a aucune collaboration nulle part. Je sais même d'entrer en Afrique du Sud, là-bas, je sais qu'il y a des âmes qui attendent encore. Partout, il semble qu'ils ne veulent pas me recevoir, Seigneur. Ce n'est pas à cause de moi, Seigneur, c'est à cause de ce message. Mais tu as dit que ce serait comme ça et tu nous l'as fait connaître pour que nous ne nous découragions pas. Nous savons à quelle heure nous vivons. Ô Dieu, ces gens sont restés assis ici ce matin à griller dans cette salle surchauffée ici. Ils ont écouté attentivement. Maintenant, ils le voient, j'en suis sûr. S'ils ne le voient pas, révèle-leur, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas permis d'apporter cette trompette. Je vois qu'elles n'ont rien à voir avec nous. C'est précisément la sixième trompette que tout cela est arrivé. Le sixième sceau a déjà été ouvert, nous l'avons vu. Et nous avons eu une vision ici, il y a 2 semaines, la vision préalable de l'épouse et de l'Église, et je l'ai racontée ici, exactement telle que tu me l'as montrée, Seigneur, je l'ai racontée. Nous en sommes là, il est peut-être plus tard que nous pensons. Ô Père, s'il y a une personne ici ce matin qui s'est contentée d'accepter une superstition, une influence théologique, ou une parole de théologien, ce qui est contraire à la parole de Dieu, et ils ne connaissent pas le vrai Christ, le vrai Saint-Esprit, ça ne leur est pas encore révélé, la parole, ce qu'il en sera de la parole en ce jour-ci. Tout ce qu'ils voient, c'est une tradition. Ils vivent dans une lumière qui les aveugle. C'est comme le plus grand vol qui a jamais été commis dans ce monde. Il s'est passé en Angleterre. Il a été commis en se servant d'une fausse lumière. Et le plus grand vol qui a jamais été commis dans ton Église, c'est quand ils ont accepté une lumière dénominationnelle et qu'ils ont refusé la lumière véritable de la Bible, le Christ. Ô Dieu, sois miséricordieux, sauve les perdus, Seigneur. Je t'en prie, je demande seulement un petit moment encore, Jésus. Nous avons des bien-aimés. Seulement un petit moment encore. Bientôt, cette grande pierre se détachera de la montagne. Accorde-le, Seigneur, s'il y a des gens ici ce matin qui ne t'ont pas accepté, puissent-ils venir à l'instant, gentiment, te recevoir. Pendant que nous avons la tête inclinée, si vous voulez lever la main pour dire « Pensez à moi, Frère Branham », nous n'avons pas les hôtels et tout sont pleins. Que Dieu vous bénisse. Dites simplement « Pensez à moi ». Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, il y a littéralement des centaines de mains. Dieu notre Père, il y a une petite ombre quelque part. Ôte-la, Seigneur. Ils sont restés assis ici dans cette salle. Satan les a peut-être aveuglés dans le passé, mais je te prie de ne pas en tenir compte, comme tu l'as fait pour nous. Il y a bien des jours en arrière. Mais maintenant que tu nous appelles tous à voir... La Bible dit qu'ils étaient aveugles, ils ne le savaient pas. Il a dit, je te conseille d'acheter de moi un collier. Ô Dieu, mets de ce collier sur leurs yeux ce matin pour qu'ils voient. Bien que ce soit humble, dans un groupe de gens humbles, sans instruction et tout, mais pourtant, c'était comme ça au commencement. Accorde-le, Seigneur, qu'ils le reçoivent à l'instant. Je te les donne au nom de ton Fils, Jésus. Et tu as dit, celui qui écoute ma parole, je suis sûr, Seigneur, pour autant que je le sache, qu'ils l'ont écouté, et qui croit à celui qui m'a envoyé, pas fait semblant de croire, mais croit réellement et croit ce que la parole a dit. Ah, la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. Accorde-le, Seigneur, qu'il soit à toi à partir de cette heure. S'il y a un doute dans leur esprit, ôte-le. S'il y a une personne malade au milieu de nous, que le grand Saint-Esprit, Seigneur, ça, je sais qu'il y en a. Et les pensées qui sont révélées debout ici sur l'estrade et sont au courant de tout cela, je te prie de les guérir, Seigneur. Mets un point final à toutes les questions. Le baptistère sera ouvert à ceux qui n'ont jamais été immergés dans le nom de Jésus-Christ pour prendre le nom de l'époux. Ils en ont un dénominationnel, ecclésiastique. Personne n'a jamais été baptisé dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit, ou aspergé. Et ces choses traditionnelles qui sont le fait des églises de cet âge-ci, ce mouvement antichrist, l'image à la bête, personne n'a jamais été baptisé au nom de Père, Fils, Saint-Esprit avant que l'Église catholique soit formée. Toute la Bible et toute l'histoire qui a suivi déclarent que les gens étaient baptisés au nom de Jésus. Paul a dit dans Galates 8:1, « Même si un ange du ciel venait prêcher un autre évangile, qu'il soit anathème. Et tu as ordonné à ces gens qui avaient été baptisés du baptême de Jean, celui-là même qui avait baptisé Jésus, de venir se faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ. » Dans Actes 19, « Et tu as dit, ne laissez même pas un ange vous déclarer autre chose. » Au dernier jour, il viendra un messager qui guidera les gens pour qu'ils reviennent aux prémices, qu'ils reviennent à la foi originelle. Accorde-le, Seigneur, que ce grand messager qui est au milieu de nous en ce moment, le grand Christ, le Saint-Esprit, qui nous a donné la vivacité, qui nous a donné la compréhension, en dévoilant la parole et en nous la révélant, puisse-t-il les guider pour qu'ils reviennent à la foi pentecôtiste originelle. Comme Pierre l'a dit au jour de la Pentecôte, repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission du péché. Et c'est comme ça que cela s'est toujours passé pour chaque personne, jusqu'à ce qu'il y ait l'Église de Rome à Nicée. Ô Dieu, sois miséricordieux en ce moment, le baptistère sera prêt. Les cœurs sont ouverts. Entre, Seigneur Jésus, nous sommes aux dernières heures. S'il y a une possibilité pour eux, Seigneur, d'entrer à cette heure-ci, c'est ce que j'espère et je suis confiant que c'est le cas. Et nous qui sommes entrés, Seigneur, puissions nous faire l'inventaire maintenant alors que nous avons vu et entendu la voix de Dieu qui a parlé par sa parole et nous savons à quelle heure nous vivons. Accorde-le, Père, nous te les confions au nom de ton Fils. Maintenant, avec nos têtes inclinées, doucement, tendrement, Jésus appelle. Nous appelle, vous appelle.